Vous êtes sur RTL.
Équipe des petits matins en la personne de Jérôme Florin. À demain, Jérôme.
À demain.
Mensonge, duplicité, rupture majeure de confiance et finalement mépris, ce sont les termes utilisés par le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, ce week-end. Il s'agit bien entendu de notre contrat de sous-marin abandonné par l'Australie au profit des États-Unis et du Royaume-Uni. Le ministre des Affaires étrangères évoque une crise grave. On est au plus haut des termes utilisés dans une crise diplomatique. Nous allons très largement y revenir ce matin sur RTL et ce en plusieurs étapes, car finalement, nous parlons aussi bien de l'économie française que de l'équilibre de la planète. À 7h40, Alba Ventura reçoit l'ambassadeur de France aux États-Unis. Philippe Etienne a été rappelé pour consultation et il a vu le président Macron hier soir. Juste auparavant, François Langlais nous proposera un autre regard sur cette crise. Notre spécialiste économique estime qu'au-delà de la catastrophe industrielle française, il fallait absolument stopper l'emprise de la Chine dans le Pacifique oriental. Bref, nous sommes bien dans une crise majeure et planétaire. Nous irons d'ailleurs consulter notre correspondant en Chine. À 8h35, nous sommes le lundi 20 septembre 2021. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une ce matin donc, ces tensions diplomatiques, on l'a compris, qui ne se calment pas entre la France et les États-Unis.
Oui, vous avez rappelé les mots prononcés ce week-end et on pose cette question également ce matin sur RTL. La France savait-elle que ses sous-marins étaient sur la sellette? L'Australie affirme que oui, Paris dément toujours. C'est une avancée majeure dans la lutte contre le cancer de la prostate. Un nouveau traitement permet de réduire la mortalité de 25% et de gagner également en espérance de vie. Des médecins obligés de se payer un garde du corps, c'est aujourd'hui une réalité en France pour les professionnels de santé menacés par les antivax les plus radicaux. Et puis la première mitigée de Lionel Messi au Parc des Princes, le PSG a gagné mais le génie argentin est sorti à la 76e minute et ça ne lui a pas plu du tout. Et ça s'est vu.
La politique avec vous, Olivier Bosse.
Et les écolos, les verts, sont-ils franchement mûrs pour le pouvoir?
Réponse dès la fin du journal.
RTL Matin.
Et donc l'événement ce matin sur RTL, l'ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne, sera l'invité tout à l'heure d'Alba Ventura à partir de 7h40. Il va parler pour la première fois, c'est très rare, à l'image donc de cette crise diplomatique majeure qui ne se calme pas, loin de là. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a redit que la France n'avait jamais été mise au courant des doutes de l'Australie concernant les sous-marins français, ce que conteste Canberra. Qui dit vrai, Christophe Decroix?
En tout cas, le 15 juin dernier, il n'était officiellement pas question d'une remise en cause du contrat. Emmanuel Macron recevait alors à l'Élysée le Premier ministre australien, Scott Morrison.
Nous avons poursuivi également la mise en œuvre du programme de 12 futurs sous-marins qui représentent un pilier de notre partenariat et de la relation de confiance entre nos deux pays.
Scott Morrison affirme aujourd'hui que lors du dîner, il a fait part de profondes et graves réserves. Nous avions clairement indiqué, dit-il, que nous prendrions une décision basée sur notre intérêt stratégique national. Le 23 juillet, les deux hommes se téléphonent et réaffirment pourtant dans un communiqué commun leur volonté de poursuivre l'intensification du partenariat stratégique basé sur cette commande de sous-marins. Enfin, il y a trois semaines, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly rencontrent leurs homologues des affaires étrangères et de la défense. Les Australiens affirment qu'ils ont fait part de leurs inquiétudes quant au retard et au surcoût du programme. À Paris, on ne nie pas qu'il y ait pu y avoir des interrogations, mais jamais, dit-on, ils n'ont évoqué une remise en question du contrat.
Merci Christophe Decroix, chef du service étranger d'RTL. Emmanuel Macron va donc s'entretenir cette semaine avec le président des États-Unis à la demande de Joe Biden. Emmanuel Macron qui a été jusque-là assez silencieux. Xavier Bertrand d'ailleurs, candidat déclaré à la présidentielle, a été très critique hier sur RTL vis-à-vis du chef de l'État.
Je pense tout d'abord qu'il faut que le président de la République s'exprime, s'explique. Il est aux abris, le président de la République. Depuis que l'annonce a été faite, il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Le président de la République doit lui-même des explications, pas renvoyer ça au niveau des ministres. Et qu'ensuite, il faut qu'il y ait absolument ce sommet de l'OTAN où les options seront sur la table en fonction de ce que diront les Américains. Qu'en attendant, on puisse, au-delà de cette démarche symbolique, utile, mais symbolique, du rappel des ambassadeurs, que nous puissions voir également s'il n'y a pas des coopérations que nous pouvons aujourd'hui remettre en cause si ça ne met en rien en péril la sécurité de nos militaires. Mais encore une fois, je demande à ce que l'on soit respecté et traité en allié et pas en valet.
Xavier Bertrand, invité hier midi du grand jury RTL Le Figaro LCI, il était interrogé par Benjamin Sportouche.
Et donc, je vous le rappelle, Philippe Etienne, ambassadeur de France aux États-Unis, sera l'invité d'Alba Ventura à 7h40 pour pour sa première prise de parole.
En bref, on vient d'entendre Xavier Bertrand. Il a également été hier midi très virulent sur les dernières annonces budgétaires. Il accuse Emmanuel Macron de faire campagne, je le cite, avec le chéquier de la France. Augmentation du budget de la police, augmentation du salaire des sages-femmes. Xavier Bertrand chiffre les dernières promesses entre 5 et 7 milliards d'euros. Est-ce que c'est vrai ? Enquête tout à l'heure dans le journal de 8h.
Il est 7h04. Un document RTL maintenant. Témoignage d'un miraculé, le secouriste qui est sorti vivant la semaine dernière du crash d'hélicoptère à Villard-de-Lans.
Oui, en Isère, il s'appelle Florent Merlet, il a 43 ans et il est secouriste au PGHM de l'Isère. Dimanche dernier, il était donc dans cet hélicoptère de la sécurité civile qui s'est écrasé alors qu'il tentait de venir en aide à un cycliste en difficulté. Il raconte le crash et comment lui s'en est sorti miraculeusement.
Bah, le choc, ça fait un fracas. Très vite, je me retrouve à l'extérieur de l'hélicoptère. Je suis sous le médecin, coincé entre le patin gauche et le dessous de la carlingue. Et par réflexe de survie, je sectionne les dispositifs de sécurité qui me relient à l'appareil. Porter secours au médecin, parce que là, je réalise que la machine brûle. Et lui, qui est encore inconscient, n'aura pas les moyens de se dégager tout seul. Donc je m'engage. Et puis mon camarade arrive, il m'aide et on sort le médecin. Et là, en me retournant, j'ai vu que Pierre-François, le mécanicien, avec Vincent, étaient aussi sortis de la machine. Donc la machine brûle. Et j'ai entendu cette explosion. J'ai vu comme une boule blanche avec un peu des étincelles. Et juste après, j'ai vu la deuxième explosion. Je suis un miraculé.
Document RTL et témoignages recueillis par Serge Puyot, qu'on entendra d'ailleurs en longueur juste après ce journal à 7h20.
On va parler maintenant de ce nouveau traitement contre le cancer de la prostate.
Oui, c'est la première cause de cancer chez l'homme. 50 000 nouveaux cas tous les ans. C'est aussi l'un des cancers les plus graves, avec une espérance de vie de 3 ans en moyenne jusque-là. Mais un nouveau protocole avec l'association de 3 traitements différents apporte aujourd'hui un peu d'espoir, avec une baisse de la mortalité de 25% et une augmentation également de la durée d'espérance de vie. Écoutez Karim Fizazi, il est professeur en cancérologie à l'Institut Gustave Roussy.
Assez énorme, c'est tout à fait unique en cancérologie. L'étude sur à peu près 1200 patients montre de manière très claire que si on utilise 3 médicaments et non pas seulement 2, eh bien pour le patient ça signifie de passer de 2 ans de tranquillité, on va dire, sans progression du cancer à 4 ans et demi. Donc un bénéfice de 2 ans et demi, cela permet à ces patients de vivre plus longtemps, ce qui est bien sûr le plus important. La bonne nouvelle est que les symptômes qu'ils pouvaient présenter au moment du diagnostic, que ce soit des symptômes urinaires, mais également des symptômes liés aux métastases, et en particulier des douleurs osseuses, eh bien tout cela en général disparaît complètement, et ce pendant plusieurs années, ce qui est bien sûr fabuleux en termes de qualité de vie. Et l'autre bonne nouvelle est que ce sont des traitements qui sont déjà disponibles, si bien qu'on va pouvoir changer nos pratiques dès demain, sans attendre l'approbation d'un nouveau médicament.
Le professeur Karim Fizazi au micro d'Odile Pouget.
On peut être médecin aujourd'hui en France et être protégé par un garde du corps, vous avez bien entendu. La faute aux antivax, les plus radicaux qui insultent, qui menacent, et pas seulement sur les réseaux sociaux. On vous explique tout cela dans un instant.
RTL Matin.
RTL, il est 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Face à la virulence et à la violence de certains antivax, des médecins et des scientifiques demandent à être protégés.
Oui, ils ont signé une tribune ce week-end dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Ils sont effectivement menacés non seulement sur les réseaux sociaux, mais également dans la vraie vie. Jérôme Martin est médecin généraliste en Haute-Garonne et lui a déjà décidé d'engager un garde du corps.
On reçoit des courriers de menaces, on reçoit des mails de menaces. On sait où tu habites, on va venir te chercher, on viendra vous juger, vous serez exécuté, on va venir vous pendre, etc., etc. Moi, j'ai pris ce qu'on appelle un APR, c'est-à-dire une protection rapprochée pour mes déplacements. Chaque fois que je vais d'un point A à un point B, il va être avec moi et il va surveiller. C'est des gens qui vont repérer s'il y a une voiture qui est passée, repassée, repassée, s'il y a quelqu'un d'un petit peu qui leur paraît suspect, qui est dans les alentours ou autre. Quoi. Voilà. Et donc, ils sont là pour surveiller l'environnement et puis passer à l'action si jamais quelqu'un avait des velléités d'agression. Imaginez que des soignants, des scientifiques, des médecins puissent être menacés simplement parce qu'ils respectent et qu'ils diffusent la science, c'est fou. C'est fou, mais enfin, c'est la réalité.
Et la colère du médecin Jérôme Marty au micro de Benjamin Pelsi pour RTL.
Le football et l'image hier soir d'un Lionel Messi boudeur au Parc des Princes.
Oui, pour sa première à domicile, l'Argentin n'a pas été décisif. Et son entraîneur l'a sorti à la 76e minute. Effectivement, il n'avait pas l'air content du tout. Pourtant, le PSG a gagné 2-1 face à Lyon. Et même Sobrier, c'est un début de saison sans faute en championnat, Philippe Sanfourche.
6 matchs, 6 victoires. Messi n'a pas encore marqué. Mais Paris vole déjà sur la Ligue 1 sans pour autant convaincre dans le jeu. Une équipe en rodage dans laquelle les stars peinent à se trouver. Le Brésilien Neymar, au micro de Prime Video, retient tout de même le positif.
Petit à petit, on s'améliore et c'est ce qu'on doit faire pour atteindre nos objectifs. Nous sommes très très heureux de cette victoire. On grandit en tant qu'équipe.
En face, l'Olympique Lyonnais, plus consistant collectivement, aurait mérité au moins le partage des points. L'entraîneur Peter Bosz regrette surtout que Paris ait bénéficié d'une erreur d'arbitrage.
C'était pas un penalty, 100%. Et je comprends peut-être l'arbitre ne peut pas voir ça, c'est possible, mais le VAR qui a toutes les images... C'est une erreur.
Un coup de pouce généreux pour le PSG qui devra en montrer bien plus dans les semaines à venir, notamment pour la réception de Manchester City dans 8 jours.
Merci beaucoup Philippe Sanfourche. De son côté, Marseille a battu Rennes 2-0 et est deuxième. Lens complète le podium.
On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Fontainebleau. Olivier.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 15, l'As, le 10, le 2, le 6, le 11 et le 7, la dernière minute étant le 10.
Olivier Bois pour le journal de 7h sur RTL. La politique avec vous, Olivier Bosse. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le résultat très serré d'hier dans la primaire écologiste est un indicateur. Les Verts ne sont pas tout à fait mûrs pour le pouvoir.
Bah oui, ceux qui ont voté à la primaire, visiblement, ne se disent pas qu'ils ont une chance l'année prochaine de porter à l'Élysée un président écolo. La preuve, ils peuvent se permettre de s'éparpiller à part quasi égale entre quatre candidats. L'écoféminisme, la fin du capitalisme, la décroissance se répartissent quasiment les trois quarts des voix. La radicalité est ultra majoritaire. Il reste 27% à Yannick Jadot, en tête certes, mais bien seul à parler d'une écologie au pouvoir.
Vous voulez dire que les autres candidats mènent d'autres combats ?
Oui, qu'est-ce qui peut expliquer cette percée de Sandrine Rousseau, quasi inconnue il y a encore quelques semaines ? Un discours très radical. C'est la seule façon aujourd'hui d'accéder à l'espace médiatique, friand de nouveautés, de caricatures et de polémiques. Quand le message est simple et qu'il choque, il passe. La radicalité est aussi un très bon moyen d'être relayé sur les réseaux sociaux et de toucher des communautés d'intérêt. Oui. Sandrine Rousseau, et elle l'assume dans sa campagne de la primaire écolo, est une candidate des minorités face aux oppressions. Elle a un postulat, une grille de lecture, comme d'autres avec l'identité et l'islamisation. Elle lit et relit tous les mots de la société avec les lunettes de cette seule grille, la domination sur les minorités, sur les femmes, sur la nature. Tout s'explique par ce constat.
Mais après tout, ça a touché les militants, non ?
Oui, et ces combats deviennent structurants même dans notre univers politique. Ils sont devenus les derniers ressorts de l'engagement. Pour payer 2 euros et voter sur Internet, les thèmes portés par Sandrine Rousseau sont plus identifiants, plus concernants, et finalement peut-être source de victoire dans une primaire à plus de 100 000 votants. La candidate a aujourd'hui les clés du second tour. Soit elle se cantonne dans son écoféminisme, et c'est Yannick Jadot qui l'emportera, soit elle arrive à parler aux autres sensibilités de l'écologie, et elle l'emportera. Dans cette seconde hypothèse, il faut quand même qu'elle arrive à toujours capter l'attention en abandonnant un peu ce qui fait sa singularité. Un défi pour une famille de pensée qui n'a pas l'habitude de faire dans le compromis ou dans la demi-mesure.
Donc, ce n'est pas encore fait.
Oui, il y a un vrai suspense. Mmh. Les sympathisants écolos ont toujours choisi jusque-là, souvenez-vous, celui qui avait le moins de potentiel toujours électoral. Ouais, souvenez-vous surtout d'Eva Joly, préférée à Nicolas Hulot en 2012. Leur vote est en fait un pur vote de conviction. Ils se voient plus en influenceurs qu'en faiseurs. Les sympathisants écolos intériorisent la défaite et font finalement comme si cette élection présidentielle n'était décidément pas faite pour eux.
Merci beaucoup Olivier Bost. Tout à l'heure à 7h40, je vous le rappelle, c'est bien l'ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne, qui sera l'invité d'Alba Ventura, notre ambassadeur qui vient de rentrer des États-Unis suite à la rupture du contrat des sous-marins avec l'Australie, viendra nous expliquer la suite que la France compte donner à cette affaire.
Yves Calvi, RTL Matin.
Et tout de suite, notre brigade RTL avec Christophe Bourou. Face à l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité, le gouvernement a annoncé le versement d'un chèque énergie de 100 euros à destination de près de 6 millions de foyers modestes. Mais en fait, que représente le budget énergie pour les ménages ? Cette hausse va-t-elle durer ? Nous allons faire le point avec notre brigade de l'actualité. Et avec vous, Christophe Bourou, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Concrètement, Christophe, que représente pour un couple avec deux enfants ce budget ?
Alors, en moyenne, comptez pour la facture d'électricité 834 € par an et un peu plus de 1 000 € pour le gaz si vous habitez une maison ou un appartement de 100 m². Et au total, ces deux postes représentent 8,5% des dépenses d'un ménage.
Alors, budget en hausse ces derniers mois, à combien chiffre-t-on exactement cette augmentation ?
Eh bien, pour l'électricité, déjà de hausse, la première 1,6% en février et 0,48% en août. Mais c'est surtout le prix du gaz qui ne cesse de grimper, près de 10% en juillet, 5% en août et 8,7% en septembre, soit au moins 50 € de dépenses supplémentaires depuis le début de l'année.
Pourquoi ces hausses, Christophe ?
D'abord en raison de la reprise économique. La demande est très forte et donc les prix grimpent. Ensuite, des stocks de gaz européens bas à cause d'un hiver dernier particulièrement rude. Ajoutez à cela une faible production d'électricité d'origine éolienne en raison des conditions météo.
Alors, autre question, est-ce que cette facture va continuer de s'alourdir ?
Oui, ça c'est la mauvaise nouvelle, car la demande est toujours supérieure à l'offre et cela va s'accélérer à l'approche de l'hiver. Déjà pour le gaz, on prévoit une augmentation de 5% en octobre et pour l'électricité, la hausse pourrait, elle, atteindre les 7 à 8% au 1er février, date à laquelle les tarifs réglementés seront révisés.
Il n'y a pas que la France, nos voisins aussi subissent bien entendu des hausses parfois spectaculaires.
Oui, c'est le cas au Royaume-Uni où les prix de l'électricité ont bondi de 300% en un mois et plus 65% en un an en Espagne. D'ailleurs, pour calmer le jeu, le gouvernement espagnol annonce une baisse de la TVA, une piste étudiée en France. L'idée serait de diminuer les taxes qui servent à subventionner les énergies renouvelables, comme les panneaux solaires et les éoliennes, et qui pèsent pour 13% des factures.
Et nous allons bien entendu observer tout cela de près avec la rédaction d'RTL. Merci beaucoup Christophe Bourroux. Dans un instant, document exclusif sur notre radio. Ce rescapé du crash d'hélicoptère survenu la semaine dernière à Villard-de-Lans, il se confie à Serge Priot sur les circonstances de l'accident pendant une opération de secours. A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Document RTL.
Il est 7h19, nous vous proposons ce matin un document exceptionnel. Il y a une semaine, un hélicoptère de la sécurité civile s'écrasait au-dessus de Villard-de-Lans, en Isère. Bilan de l'accident, 1 mort, 4 blessés. Et bien ce matin, l'un des rescapés, un secouriste du peloton de gendarmerie de haute montagne de l'Isère, témoigne. Bonjour Serge Puyot.
Bonjour.
Serge, c'est vous qui avez rencontré ce sauveteur.
Oui, le major Florent Merlet, 43 ans, est aujourd'hui un homme meurtri, traumatisé par ce drame. Il a vu le mécanicien de l'hélicoptère, Pierre-François Bonnard, mourir sous ses yeux. Lui s'en est sorti miraculeusement. J'ai pu le rencontrer vendredi dernier, juste après l'hommage national rendu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la base de la sécurité civile du Versou, le major Florent Merlet, qui raconte donc pour la première fois ce terrible crash.
C'était soudain, les souvenirs que j'ai, c'est un virage serré. Puis après, tout va très vite. La position que j'avais à l'arrière de l'hélicoptère ont fait que j'étais surpris par l'impact. En fait, j'ai vu qu'on plongeait. Donc c'est vraiment surpris par l'impact que j'ai réalisé, que là, ça y est, on venait de crasher. Bah, le choc, ça fait un fracas assez important. Moi, j'ai entendu personne crier dans l'hélicoptère. Tout le monde a essayé de survivre. Très vite, je me retrouve à l'extérieur de l'hélicoptère. Je suis sous le médecin, coincé entre le patin gauche et le dessous de la carlingue. Et par réflexe de survie, je sectionne les dispositifs de sécurité qui me relient à l'appareil. Porter secours au médecin, parce que là, je réalise que la machine brûle et lui, qui est encore inconscient, n'aura pas les moyens de se dégager tout seul. Donc je m'engage et puis mon camarade arrive, il m'aide et on sort le médecin. Et là, en me retournant, j'ai vu que Pierre-François, le mécanicien, avec Vincent, étaient aussi sortis de la machine. Donc déjà, dans mon esprit, je me dis, ça y est, on est les cinq, on est dehors, on va pas brûler dans la machine, on va pas rester coincé sous la machine. La machine brûle, et j'ai entendu cette explosion. J'ai vu comme une boule blanche avec un peu des étincelles. Et juste après, j'ai vu la deuxième explosion. Je suis un miraculé. Voilà, c'est se dire, on vient d'échapper à la mort. On sait qu'en cas de crash, le bilan est très, très, très souvent très, très lourd. Donc se dire qu'on a pu survivre à un crash d'hélicoptère, ça tient du miracle. Et puis après, il y a des choses pour lesquelles on a été formé, des choses qu'on a aussi enregistrées dans un coin de sa tête pendant son parcours professionnel, qui ont contribué aussi à ce résultat-là.
Une sorte de réflexe de survie.
Complètement. Au moment de l'accident, je ne me suis jamais senti impuissant. J'ai fait ce que j'ai pu. Après, j'étais blessé. Voilà, on a eu l'impression d'avoir fait le job, comme on dit.
Vous êtes blessé aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je suis blessé léger. J'ai essentiellement des contusions, notamment des contusions costales qui me font encore un peu souffrir. Mais voilà, j'ai pas de lésions majeures. Encore une fois, hein, on parlait de miracle tout à l'heure. Je suis un miraculé.
Le long massage cardiaque qui a eu lieu sur Pierre-François, le mécanicien, n'a malheureusement pas suffi.
La violence du choc, l'impact, ont fait que malheureusement, on n'a pas pu le réanimer. On est là aujourd'hui. Le sort a voulu qu'on soit là. Le sort a voulu que Pierre-François ne le soit plus. Une grosse pensée pour lui, pour le professionnel qu'il était, et une pensée plus encore pour sa femme, pour son petit garçon.
C'était quelqu'un de bien, d'expérimenté, de méticuleux.
C'est vraiment le maillon vital, incontournable de toutes ces opérations d'hélitroyage. C'est les yeux du pilote. C'est lui qui nous amène le câble là où il faut. Voilà, c'est un travail d'équipe, chacun a un rôle à jouer, et si chacun ne le joue pas parfaitement, on n'arrive pas à remplir la mission. Ce qui était très dur pour nous dimanche, c'est de revenir à 4 alors que nous étions partis à 5. Ce sentiment d'injustice de ne pas avoir eu tous la même chance, puisque on est 3 blessés légers, notre ami le médecin est encore hospitalisé, et malheureusement pour Pierre-François, le crash a été fatal assez rapidement. Donc c'est tout sentiment d'injustice et toutes ces questions aussi que doivent se poser ses proches, sa femme et son petit garçon qui sont durs pour nous, malgré toute la joie qu'on a d'être encore en vie et de pouvoir serrer nos proches, nos amis aujourd'hui.
Le témoignage d'un miraculé à votre micro, Serge Payot. Merci Serge.
RTL Matin, Yves Calvi.
À 7h24, il est temps de retrouver notre pépite musicale. Bonjour Steven Bedry.
Bonjour à tous.
Hier 19 septembre, on célébrait les 40 ans de la reformation de Simon & Garfunkel.
Oui, encore une. 500 000 personnes avaient assisté à ce concert à Central Park à New York. Des retrouvailles de courte durée, le temps de faire une tournée mondiale. Paul Simon et Art Garfunkel tenteront d'écrire de nouvelles chansons en 1983, en vain. Leur cinquième album est donc resté le dernier, Bridge Over Troubled Water, chef-d'œuvre de 1970, avec le titre éponyme, écrit par Simon, interprété quasi intégralement par Garfunkel. Simon avait été inspiré pour le texte par un gospel de Claude Jeter et pour la musique par Jean-Sébastien Bach. Bridge Over Troubled Water est l'une des chansons les plus reprises. Les Jackson 5, Aretha Franklin ou Johnny Cash s'en sont emparés. Nana Mouskouri l'a même adapté en français. Et l'un des premiers à l'avoir réenregistré, c'est Elvis Presley.
Ah bon ?
Moins de 6 mois, et oui, après la sortie du morceau, le King était entré en studio à Nashville en juin 70. On retrouve sa version sur l'album That's the Way It Is. Presley la chantera régulièrement lors de ses concerts. C'est notre pépite du jour.
When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh,
Presley chantera cette reprise lors de son ultime concert en 1977. Quelques années auparavant, Paul Simon avait vu Presley reprendre sa chanson sur scène à Las Vegas. Il aurait confié en sortant « Ça y est, autant abandonner maintenant ».
Assez d'interrompre Elvis, mais bon, merci beaucoup, quelle surprise et quelle étonnante et belle reprise. Hein. Dans un instant, on va retrouver nos grosses têtes et surtout notre météo avec Marina Giraudeau qui m'a rejoint dans ce studio. Bonjour Marina, à
bonjour.
Tout de suite. Nos grosses têtes sont en pleine forme, du repos pendant le week-end, pourquoi pas un peu de sport, n'est-ce pas, Pierre Palmade ?
Vous jouez au tennis, Pierre? Je vous vois bien voter, non?
Non, et je refuse de courir derrière une balle. Elle a qu'à venir vers moi. Je veux bien tendre la raquette, mais pas plus. C'est tellement simple à acheter, en plus.
Pourtant, franchement, j'étais persuadé que c'était un sport qui vous plaisait. Il y a quelque chose de... Parce que vous êtes assez élégant, noble.
Ça pourrait être celui qui me plaît le plus.
Mais oui, vous avez une sorte de... Vous savez, ils sont souvent... Il y a les tennismen, il y a des grands maigres. Oui.
Non, mais les cris qui poussent m'excitent énormément. C'est des cris quand même très orgasmiques. Et je ne regarde pas le tennis, je l'écoute.
Les grosses têtes vous donnent rendez-vous avec Laurent Ruquier de 15h30 à 18h. Marina Giraudot, on a un lundi à la fois gris et pluvieux.
Oui, c'est vraiment les pluies qui dominent aujourd'hui sur le pays. Alors, c'est pas de la pluie partout pour tout le monde, mais on a ce risque d'averse qui s'étend du sud-ouest au centre en remontant vers le nord du pays. Il y a deux zones qui vont échapper à ce mauvais temps. En Méditerranée, PACA, Corse, Côte de l'Occitanie, là où il y aura du soleil, mais du vent. Et puis le soleil va revenir aussi sur la Bretagne. Ça touchera ensuite le Cotentin, les Pays de la Loire. Mais sinon, partout ailleurs, vous gardez ces nuages, ce risque d'averse, de la neige en montagne sur le nord des Alpes, au-dessus de 2500 mètres. Et côté température, ce matin, ça va, c'est plutôt doux. Cet après-midi, c'est un peu frais pour la saison, 17-21 degrés, sauf en Méditerranée, 24 à 26.
7h31, merci Marina Giraudot et merci à vous qui écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 19 septembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et avant toute chose, je vous propose d'écouter un témoignage extrêmement fort. Aujourd'hui, au procès des attentats du 13 novembre, la cour doit entendre les enquêteurs qui ont fait les premières constatations sur la terrasse de la Belle Équipe, où 20 personnes ont été tuées. Jean-Luc Vertenschlag habite juste au-dessus du bar. Il est kiné, secouriste depuis toujours. Et ce jour-là, il s'est retrouvé au cœur du chaos.
En face de moi, sous les fenêtres, j'avais cette Seat noire avec un tireur à l'arrière qui arrosait en permanence de droite et de gauche la terrasse. Un autre qui était devant la voiture et qui tirait sur les véhicules et sur les gens qui arrivaient. Et à un moment, j'en ai vu un troisième monter sur la terrasse, des rafales, et y recharger. C'est extrêmement long. Et puis il remonte dans la Seat. Et là, j'ai ma fille, je peux pas rester là. Enfin, faut que je descende. Donc, je monte prendre ma trousse de secours. Et là, des cris et du silence. C'est étonnant comme sensation. Et je me dirige vers la terrasse. Et alors là, mais c'est indescriptible. Tout était mélangé. Les tables, les chaises, les corps, le sang. Enfin, tout était par terre.
Un témoignage de Jean-Luc Vertenschlag recueilli pour RTL par Thomas Proutot.
Nous allons revenir maintenant sur cette avancée majeure dans le traitement du cancer de la prostate.
Un traitement du cancer avec métastase, cela touche 5000 personnes. Il s'agit de la combinaison de trois traitements qui existent déjà. Cela permet d'augmenter la survie de 2 ans et demi et de réduire de 25% le nombre de décès. Des traitements anti-cancer, il en existe beaucoup, mais ils ne sont pas toujours disponibles. Tous les ans, il y a environ 10% de médicaments en pénurie. Théoriquement, depuis le 1er septembre, les labos doivent disposer d'un stock minimal de 2 mois, mais pour l'heure, les patients se débrouillent. C'est le cas de Mathieu qui souffrait d'un cancer de la vessie.
C'est un peu la double peine hein, quand on vous annonce que vous avez un cancer. Bon, c'est pas déjà waouh, mais quand on vous annonce dans la foulée qu'on va pas pouvoir vous soigner parce qu'on a rupture de médicaments. Il y a un peu de sidération à l'instant où on vous l'annonce, un peu de colère à chaud, et puis après, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête, et entre la maladie et la disponibilité du médicament, qui n'est pas facilitante quand on est dans un process de traitement et de guérison.
Propos recueillis pour RTL par Agathe Landé. La primaire écologiste va se jouer entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Ils ont recueilli respectivement 27 et 25% des voix au premier tour, avec plus de 122 000 électeurs inscrits. Le second tour aura lieu du 25 au 28 septembre. Dans la crise des sous-marins, Joe Biden et Emmanuel Macron vont s'expliquer cette semaine. En attendant, Paris a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Par ailleurs, une rencontre prévue cette semaine entre les ministres des armées français et britanniques a été annulée à la demande de Paris.
Le foot, Paris l'a emporté de justesse hier soir au Parc des Princes.
2-1 face à Lyon avec un but d'Icardi à la dernière seconde. Messi n'a toujours pas marqué, il est même sorti à la 76e minute, ce qui n'a pas eu l'air de lui plaire. Les Parisiens ont un nouveau dauphin, c'est Marseille qui a battu Rennes 2-0. Lens complète le podium devant Angers, humilié hier à domicile par Nantes, 4-1. Pour le reste, une collection de matchs nuls. De partout dans le derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco, 1-1 entre Clermont et Brest, 0-0 entre Reims et Lorient et 1-1 entre Troyes et Montpellier. Notez que la commission de discipline tribune de la Ligue se réunit aujourd'hui après les incidents entre supporters samedi soir pendant le match Lens-Lille. Rémi Serpeau fait partie des 6 blessés légers de cette soirée. Il a reçu un siège lancé par la tribune lilloise.
Puis j'avais notamment un gamin de 9 ans qui était juste en dessous de nous et je voulais aider son père à sortir. Et au moment où je suis dos à la tribune lilloise, je reçois un siège et après blackout. Quoi. Ce qui s'est passé, c'est inadmissible. J'ai vu des gamins de 7-8 ans partir en hurlant de terreur parce qu'il y avait des fous, qu'importe le club ou autre. Ces comportements-là n'ont rien à faire sur un terrain.
Ce supporter lance-foi au micro RTL d'Antoine Decarne.
On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, ce sera la face cachée du sport quand les athlètes sont pris d'une envie pressante.
Merci Isabelle Choquet. Dans un instant, François Langlais revient sur la crise des sous-marins australiens avec un regard bien particulier. A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Langlais Co avec vous, François Langlais. Bonjour François.
Bonjour à tous.
Le contrat de sous-marin américain vendu à l'Australie en lieu et place de navires français n'en finit pas de faire des vagues, mais vous nous dites qu'au fond, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. Expliquez-nous ça.
Entendons-nous bien, Yves. C'est plus que regrettable pour les industriels français qui se font déposséder du contrat du siècle. Mais sur le fond, cette affaire signe le retour magistral et bienvenu de l'Amérique face à une Chine de plus en plus dangereuse. En armant l'Australie avec ses sous-marins pour contrer Pékin, Biden fait ce qu'Obama n'a jamais osé faire. Il met tout le poids de l'Amérique pour stopper l'expansion chinoise.
Mais quel est l'enjeu de cette lutte entre les deux superpuissances, François ?
Le contrôle du Pacifique oriental, que Pékin considère comme sa mer intérieure parce que les routes maritimes qu'il emprunte acheminent le pétrole, les matières premières dont il a besoin. Il y a 40 ans, l'axe principal du commerce mondial, c'était encore la liaison Atlantique Nord entre l'Amérique et l'Europe. C'est fini. C'est désormais en Extrême-Orient que l'activité économique la plus forte s'est déplacée. C'est là que la puissance installée, les États-Unis, subissent la concurrence de la puissance émergente, la Chine, un peu comme le Royaume-Uni subissait les attaques de l'Allemagne émergente au siècle dernier.
Mais qu'est-ce qu'on reproche à la Chine exactement ?
Eh bien de fermer la mer à toute puissance qui la menacerait et de considérer les pays voisins comme des pays tributaires, des vassaux. Elle a pris pied sur des îlots philippins pour y construire des bases militaires. Elle multiplie les incursions dans l'espace aérien de la République de Taïwan. Elle menace de détruire l'Australie avec une pluie de missiles. Et n'oublions pas le Japon, le rival de toujours que la Chine déteste, et puis la Corée du Sud, qu'elle méprise. Et parmi tous ces sujets, il y en a un qui est explosif, c'est Taïwan. Parce que pour Pékin, l'île indépendante n'est qu'une province chinoise qui doit revenir à la mère patrie. Alors que pour Washington, c'est un pays ami avec lequel un accord secret d'assistance militaire existe depuis Ronald Reagan. Bon, il faut ajouter que l'île est un centre industriel de premier plan pour la production de semi-conducteurs, vous savez, ces puces électroniques essentielles à l'industrie d'aujourd'hui. 65% des semi-conducteurs mondiaux viennent de Taïwan. Autant dire que ni la Chine ni les États-Unis ne peuvent perdre Taïwan. C'est l'enjeu clé de la crise actuelle.
Et la France ne pouvait pas armer l'Australie plutôt que les États-Unis ?
En fait, non, parce que ce que l'Australie achète, ce sont pas des sous-marins, c'est la protection de la superpuissance américaine. Le contrat industriel, je dirais qu'il est presque secondaire. Et la France ne peut pas vendre de protection stratégique. D'abord parce que elle n'en a pas les moyens, toute seule. Ensuite, elle est elle-même ambiguë face à la Chine, comme l'Europe d'ailleurs, hein, qui tantôt montre les dents, tantôt fait risette pour vendre des sacs Hermès et des voitures Volkswagen sur le plus grand marché du monde. Le seul pays qui peut encore impressionner la Chine, c'est l'Amérique.
Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur RTL.fr pour Langlais Co hors série. Il est 7h40, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
L'ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne, il a été rappelé à Paris après l'incident diplomatique des sous-marins. Il a vu le président Macron hier soir. Nous lui demanderons quelle peut être l'issue de cette crise entre les États-Unis et la France.
A tout de suite avec notre ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne.
Tu bouges. RTL Matin, avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne.
Bonjour Philippe Etienne.
Bonjour, merci beaucoup de votre invitation.
Merci monsieur l'ambassadeur. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, vous a rappelé de Washington sur ordre du président de la République. C'est une première, hein. Jamais la France n'avait rappelé son ambassadeur aux États-Unis. Vous êtes arrivé tard, samedi soir. Vous avez été reçu par le président Emmanuel Macron hier soir. Avant de nous expliquer ce qui se joue, dans quel état était le président de la République vis-à-vis des États-Unis ? Lui aussi, comme le ministre des Affaires étrangères, parle de mépris, de trahison ?
J'ai été reçu d'ailleurs aussi par le ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. J'ai été rappelé pour consultation. C'est un peu le sens de cette procédure qui est en effet exceptionnelle et qui marque la gravité de notre réaction et de ce moment dans nos relations avec les États-Unis. Et donc l'idée, c'est d'évaluer la situation de nos relations, d'essayer d'en voir les perspectives. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, j'ai été reçu par le ministre, le président de la République, et c'est la raison pour laquelle je vais continuer pendant mon séjour en France à avoir ces consultations.
Mais il a fait montre de mécontentement, le président ?
Nous avons analysé la situation et nous avons évoqué ce qui peut être fait par la suite, bien sûr.
Alors, c'est ça, être rappelé pour consultation, qu'est-ce que ça veut dire précisément ?
Donc c'est ça, c'est deux choses. Premièrement, marquer la gravité de ce moment. Vous avez bien fait de dire que c'est tout à fait exceptionnel. Donc c'est quelque chose qui a été, c'est une procédure qui a été choisie pour les ambassadeurs de France aux États-Unis et en Australie pour marquer cette gravité, de l'ampleur de nos préoccupations, et aussi pour penser à la suite,
pour dire comment on répond,
voir comment. Alors là, c'est déjà une réponse, hein, le rappel. Il y a eu des réponses, des déclarations, il y a ce rappel. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer, bien sûr. Et nous en avons évidemment parlé, nous allons continuer à en parler.
Mais Philippe Etienne, on ne rompt pas avec les États-Unis, on n'a pas les moyens de se fâcher avec l'Amérique.
Alors d'abord, ce n'est pas une rupture, en effet, dont on parle. Mais le moment est suffisamment sérieux pour avoir ce type de geste diplomatique. Ensuite, je crois que les Américains eux-mêmes sont préoccupés d'assurer l'avenir de leur relation avec la France. Toutes les réactions que j'ai reçues montrent qu'ils nous voient pour ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays sérieux, un allié, je dirais, à la fois capable, cohérent, fiable, notamment sur le plan militaire et de sécurité, que ce soit au Moyen-Orient, en Méditerranée, en Afrique, dans l'Atlantique, dans l'Europe et dans les océans Indien et Pacifique, bien sûr.
J'ai lu des commentaires ce week-end disant que les Français faisaient leur crise, enfin, disant que les Américains considéraient que les Français faisaient leur crise, que ça allait leur passer, que c'était un accès de mauvaise humeur. Tout ça, c'est faux ?
C'est sûrement pas de la bonne humeur, certainement, mais je ne pense pas que ce soit non plus simplement un geste de mauvaise humeur. Il faut analyser ce qui s'est passé. Il faut analyser ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, et il faut qu'on en discute très sérieusement avec notre allié américain.
Mais justement, ce qui s'est passé, vous n'avez rien vu venir ? Parce que les Australiens disent que nous étions finalement parfaitement au courant, qu'ils avaient des doutes sur nos sous-marins.
Quelques jours avant les annonces de mercredi dernier, nous avions encore une rencontre des deux ministres de la Défense et des Affaires étrangères de France et d'Australie, où non seulement nous n'avons absolument pas été informés du nouveau cours choisi par l'Australie, mais en plus, il y a eu un nouveau coup de chapeau au contrat que nous avions signé en 2016 entre l'Australie et la France. Et d'ailleurs, l'entreprise française est une entreprise américaine, n'oublions pas. C'était un contrat à trois avec une entreprise américaine. Donc ça, c'est la réalité. Après, du côté des Américains, ils savaient l'importance, et c'était pas seulement l'importance industrielle que nous attachions à ce contrat. Nous leur avions dit à de nombreuses reprises que c'était aussi une partie essentielle de notre implication dans cet espace indo-pacifique, de notre stratégie indo-pacifique. Quand j'étais conseiller du président Macron, je me souviens très bien, début mai 2018, nous étions justement à près de Sydney, sur la base de Garden Island. C'est là que le président de la République avait présenté la stratégie pour l'Indo-Pacifique de la France. Et nous avons donc dit cela aux Américains. Nous avons dit que c'est très important pour notre implication. Et les Américains nous ont gentiment renvoyés vers les Australiens.
Mais donc pendant 18 mois, excusez-moi, ils ont concocté les Américains et les Australiens dans notre dos. Et jamais nous n'avons été informés, nous n'avons eu un signe. Comment vous êtes traité à la Maison Blanche, monsieur l'ambassadeur ? Non mais comment êtes-vous traité ?
Peut-être pas 18 mois, en ce qui concerne les Américains en tout cas, d'après ce que nous savons maintenant. Mais évidemment, dès que nous avons appris dans finalement le mercredi matin dans la presse australienne et américaine qu'il y aurait cette annonce plus tard dans la journée, j'ai évidemment demandé à être reçu. J'ai été d'ailleurs reçu, mais nous avions effectivement demandé quelques jours auparavant des contacts que nous n'avions pas encore eus. Et là, nos partenaires américains nous ont confirmé ce qui allait être annoncé. Nous
oui, avons pu, c'était nous un avons peu au dernier commencer. Moment, non ?
C'était un peu tard, en effet. Ce que nous avons pensé.
Cet épisode diplomatique dit combien nous sommes, nous Français et même Européens, le cadet des soucis des Américains.
Alors vous avez raison de parler de l'Europe finalement, parce que finalement c'est aussi un peu de cela dont il s'agit, comme on l'a vu dans d'autres affaires récentes, quelle est l'importance que l'Europe représente pour notre allié américain. En même temps, je crois, comme je l'ai dit, que nous sommes quand même aussi vus comme un allié important. Je parle de la France, sans doute l'Europe aussi en général, y compris sur le plan de la sécurité et sur le plan des affaires de défense, sans même parler des questions économiques, technologiques. Les États-Unis savent que nous sommes un allié important. Et donc, les États-Unis...
C'est-à-dire
qu'ils
ont besoin de nous sur le plan de la sécurité ?
Les États-Unis ne peuvent pas ne pas noter notre réaction. Et je crois que, sur le plan de la sécurité, bien sûr, nous avons besoin des Américains en Europe. L'Europe, en général, c'est le sens de l'Alliance Atlantique. Mais je crois que les Américains ont aussi le désir de continuer à travailler avec nous. Notre armée est très respectée aux États-Unis. Tout ce qui contribue à la sécurité globale, tout ce que la France donne comme contribution est très, très respecté aux États-Unis.
On a entendu dire tout le week-end que Joe Biden avait fait capoter ce contrat car nous ne montrions pas, nous Français, assez de partenariat avec eux. Nous n'étions pas finalement suffisamment alignés. C'est exact.
Je ne sais pas. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit, en tout cas. Mais il y a certainement une conversation à avoir. Ceci étant, vous parlez dans cette séquence de la Chine aussi. L'Union européenne a adopté sa propre stratégie sur la Chine, qualifiée en trois piliers. Et l'Union européenne a clairement dit, il y a déjà deux ans, que nous voyons cette relation comme une rivalité stratégique et comme une concurrence, une compétition économique et technologique et un partenariat sur les affaires globales. Les États-Unis, cette administration, a adopté à peu près le même genre de catégorie pour décrire ses relations avec la Chine.
Vous dites que l'Union européenne, on est assez divisé finalement en Union européenne vis-à-vis de la Chine.
Eh bien non, justement, on est beaucoup moins, je pense, depuis l'adoption de cette stratégie. Il y a effectivement une politique européenne vis-à-vis de la Chine qui est nouvelle.
Mais Philippe Etienne, alors, ce qui se joue dans cette affaire, c'est le contrôle de la zone Indo-Pacifique. Comme le disait à l'instant François Langlais, l'Amérique met tout son poids pour contrer l'expansion chinoise, parce que l'important, c'est la protection stratégique de cette zone. Est-ce que vraiment, vraiment, nous sommes capables, nous, d'assurer cette protection ? Ou est-ce que seule une superpuissance peut le faire ?
Nous avons, nous, une stratégie, une politique indo-pacifique. Nous sommes présents dans les deux océans. Nous avons des positionnements militaires. Nous avons nos populations, nous avons nos intérêts. La question, nous avons adopté une stratégie indo-pacifique. L'Union européenne est en train d'en adopter une. La question est de savoir si, par exemple, les États-Unis souhaitent aussi avoir un partenaire européen, car là, vraiment, la dimension européenne est importante, qui souhaite aussi avoir une application dans cet espace, y compris pour contribuer au respect de la liberté de circulation maritime, par
Mais
exemple.
Mais nous, à des on principes reste entre communs. La France et la Chine. Est-ce qu'on est dans une voie comme ça, entre la France et la Chine, entre les États-Unis et la Chine, pardon ?
Nous avons toujours dit qu'il n'y avait pas d'équidistance. Nous avons des objectifs qui sont bien plus proche de ceux que poursuivent les pays occidentaux en général. Mais nous avons aussi notre politique, bien sûr, comme Union européenne, c'est normal.
Au fond, Philippe Etienne, cette crise a révélé que nous ne sommes plus une grande puissance. Nous sommes une puissance moyenne avec une influence relative.
Nous sommes une puissance d'équilibre, nous sommes une puissance importante. Nous avons nos moyens, les moyens de la France. Nous avons aussi une Union européenne qui a de plus en plus les moyens d'assurer sa contribution à la sécurité globale. Et nous voulons poursuivre dans cette voie, nous voulons poursuivre l'augmentation des moyens de l'Union européenne et la montée en puissance des politiques de l'Union européenne dans ce domaine aussi de la sécurité.
Merci beaucoup Philippe Etienne. Je vous rappelle que vous avez eu une grande carrière diplomatique avant de devenir le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron qui vous a nommé ambassadeur de France à Washington. Et 2022 va signer la fin de votre carrière ?
Eh bien oui, les meilleures choses ayant une fin, j'atteins l'âge de la retraite, mais à la fin de l'année 2022.
À la fin de l'année 2022, vous êtes pleinement engagé. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.
Merci,
Le moment est suffisamment sérieux pour marquer des choses par mon rappel, vient de nous rappeler l'ambassadeur de France aux États-Unis. Quelques jours auparavant, le contrat était toujours salué par les acteurs du dossier. Vient de nous dire Philippe Etienne, nous sommes une puissance d'équilibre avec l'Europe, dans cette région aussi. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux. Dans un instant, Marina Giraudot pour notre météo. Nous allons tout de suite retrouver l'œil de Philippe Cavrivière.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
7h57, monsieur l'ambassadeur Philippe Etienne est donc resté avec nous. Et c'est un autre Philippe qui s'installe, Philippe Cavrivière. Je crois que vous avez d'ailleurs un parcours professionnel, Philippe, assez proche de celui de notre invité, l'ambassadeur de France à Washington.
Quasiment identique, puisque j'ai moi-même été en poste à l'étranger. Oui. J'étais à Agadir, à Punta Cana, Coral Beach et Ouarzazate.
Vous étiez en ambassade ?
Pas vraiment, j'étais au Club Med, j'étais géosport terrestre, c'est parcours, à part l'ENA on a fait le même parcours, il y a la valise diplomatique, on a la valise RTL, vraiment on se ressemble énormément, mais assez digressé, je sais que monsieur l'ambassadeur attend avec impatience mon analyse géopolitique internationale.
Ah oui.
Hier à Paris, c'était la journée sans voiture, mais aussi la journée sans sous-marin.
Mais du coup, pas faux. En tout cas, Jean-Yves Le Drian ne décolère pas contre les États-Unis.
Jean-Yves Le Drian est donc vivant. On l'a appris il y a 48 heures et c'est la bonne nouvelle de cette affaire. Il est remonté, mon Jean-Yves. Hein. Il a dit il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a eu rupture majeure de confiance. Jean-Yves, c'est devenu Anne Sinclair. Il est humilié. Il faut dire qu'on ne s'est pas assez méfié de Joe Biden, la jeune calmant américaine. Trump, il parlait peut-être mal des femmes, mais au moins, il faisait pas de coups fourrés. Il était droit dans sa connerie, Donald. Moi, je suis féministe, Yves, vous me connaissez.
Oui,
mais pour 56 milliards, il n'y a plus rien à foutre de Gisèle Halimi. Hein.
C'est un geste fort de rappeler son ambassadeur. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin, Philippe? Parce que vos analyses sont très importantes.
Je vais choquer, mais je serai allé plus loin.
Ah oui.
J'aurais déprogrammé Crocodile Dundee pour les prochaines vacances de Noël.
Oh ben non.
Je serai allé jusque-là. Alors, pour ce qui est du rappel des ambassadeurs entre quand deux pays s'engueulent, c'est toujours curieux. On dirait un couple qui divorce et qui se partage les affaires. Je reprends le tapis marocain, moi je reprends le Magimix, moi je reprends mon ambassadeur. Vas-y, je m'en fous, j'en faisais rien. Enfin, on est médiocre dans ces moments-là.
International encore. Samedi, nous avons appris le décès d'Abdelaziz Bouteflika.
On est sûr qu'il est mort, ce coup-ci. Parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Est-ce que quelqu'un a pensé à le débrancher et à le redémarrer? Moi, avec la Livebox, ça marche, hein. Alors, a priori, Boubou n'est plus. Boubou qui respectait depuis de nombreuses années la limitation des 30 km/h d'Anne Hidalgo.
Revenons en France, si vous le voulez bien. Eric Zemmour était ce week-end dans le Sud. Toutes les salles étaient archi pleines. Vous-même, Philippe, avez pu mesurer l'engouement autour d'Eric Zemmour.
Mes vidéos sur Facebook de RTL plafonnent péniblement à 20 000, parfois 25. Une fois, j'ai fait...
30 000.
Je fais plus, non?
Non, 30 000.
Ah bon, d'accord. Ouais, j'ai fait Darmanin, Castex, tout le monde s'en fout. Je fais Zemmour, pan 200 000 vues. Ah, j'ai pas peur de le dire. Reviens Eric. Avec Alban, on a fait 1 million. Un million à nous deux. Elle a fait 800 000, j'ai fait 200.
Bah, le message est passé. Hein. Un mot des chasseurs qui ont manifesté dans toute la France pour défendre les chasses dites traditionnelles.
Et dans le calme, bravo à eux. Aucun jogger n'a été blessé. Oui, le chasseur est réglo. Il tire sur le jogger, mais seulement en forêt, jamais en ville. Les chasseurs protestent notamment contre l'interdiction de la chasse à la glu. Notons que c'est grâce à cette technique ancestrale que les généraux algériens ont maintenu Abdelaziz Bouteflika sur son siège pendant des années.
Voilà. On termine avec le foot, Philippe, et puis la disparition de René Malville, le plus célèbre supporter de l'Olympique de Marseille.
L'OM gagne hier, mais perd René Malville, cette victoire, le plus bel hommage des joueurs à René. Attention, René ne pourra pas mourir toutes les semaines. René Malville était ambassadeur de l'OM dans le monde et de Pernod Ricard en région PACA. En tout cas, René, tes analyses vont nous manquer.
Joueur de merde! Mercato de merde!
Il n'aurait pas pu être ambassadeur. Merci René, et allez l'OM!
L'heure de Philippe Cavrivière, dès 7h55 en direct sur RTL. Merci Philippe, merci monsieur l'ambassadeur, bonne journée. Et nous allons maintenant faire un rapide point météo avec vous, Marina Giraudot.
Avec des températures entre 17 et 21 degrés sur les trois quarts du pays, 24 à 26 en Méditerranée. Côté ciel, ce sont les nuages qui dominent, ponctués d'averses. Deux zones vont échapper à ce temps maussade, le sud-est et puis Bretagne, Cotentin, Pays de la Loire où les éclaircies vont revenir.
Merci Marina, RTL, il est 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
À la une, ces témoignages RTL eux-mêmes se définissent comme des miraculés.
Ils étaient à bord de l'hélicoptère qui s'est crashé il y a une semaine dans les Alpes. Ils parlent ce matin pour la première fois. Vers un chargeur de portable unique, quelle que soit la marque de votre téléphone, ce sera désormais la règle en Europe. On va vous expliquer ça. La vaccination au bistrot, une bière, une dose. Et si c'était la formule pour convaincre les derniers indécis, reportage à suivre. Et puis la victoire du Paris Saint-Germain hier soir face à Lyon. Et un Lionel Messi, pas très content d'être sorti avant la fin du match, y aurait-il déjà de la friture dans le vestiaire? On se posera la question.
Et dès la fin du journal de Dominique Tenza, Cyprien Sini.
Un hommage à l'emblématique supporter de l'OM, René Malville, évidemment.
RTL Matin.
C'est donc la première fois qu'ils prennent la parole depuis le crash de leur hélicoptère la semaine dernière sur les hauteurs de Villard-de-Lans en Isère. Le major Florent Merlet, à 43 ans, secouriste au peloton gendarmerie de haute montagne. Il venait de décoller ce dimanche 12 septembre pour aller secourir un randonneur à vélo. En apparence, une mission banale, terriblement marquée par ce drame. Il revient pour RTL sur les circonstances de l'accident.
La position que j'avais à l'arrière de l'hélicoptère ont fait que j'étais surpris par l'impact. En fait, j'ai vu qu'on plongeait, donc c'est vraiment surpris par l'impact que j'ai réalisé, que là, ça y est, on venait de cracher. Bah, le choc, ça fait un fracas. Très vite, je me retrouve à l'extérieur de l'hélicoptère. Je suis sous le médecin, coincé entre le patin gauche et le dessous de la carlingue. La machine brûle et j'ai entendu cette explosion. J'ai vu comme une boule blanche avec un peu des étincelles. Et juste après, j'ai vu la deuxième explosion. Je suis un miraculé.
Miraculé, lui aussi en est un. Vincent Victoire était le pilote de l'hélicoptère. Et s'il parle ce matin, c'est avant tout lui pour rendre hommage au mécanicien disparu dans l'accident. Il s'appelait Pierre-François.
Pierre-François Bonnard, c'était un mécano exemplaire. C'est un maillon essentiel dans la chaîne du secours. C'était un ami, un vrai. Il y a une injustice totale. C'est moi qui aurais dû partir. Voilà, c'est moi le commandant de bord, c'est moi qui dois ramener... mes équipes, à bon terme, dans leur famille le soir, pour embrasser femmes et enfants. Voilà, et ça n'a pas été le cas pour Pierre-François.
Des témoignages recueillis par Serge Puyot. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces entretiens en longueur sur notre site rtl.fr. Il est 8h03, les chiffres continuent de s'améliorer. Le nombre de malades hospitalisés pour Covid a de nouveau reculé hier.
Tout comme le taux de positivité, alors que les autorités envisagent, vous le savez, d'adapter les restrictions imposées face à l'épidémie, notamment le pass sanitaire. C'est ce qu'a confirmé de nouveau hier le porte-parole du gouvernement. Plus de 50 millions de Français ont désormais reçu une injection et plus de 47 millions ont même un schéma vaccinal complet, 70% de la population. Pour autant, il reste encore des indécis à convaincre par tous les moyens. Et pourquoi pas se faire vacciner en allant boire une bière. C'est une première en France. Hier à Lille, le Diplomate, un bar tabac installé dans le quartier de Fives, est devenu un centre de vaccination le temps d'une journée. Reportage Antoine Decarne.
Oui, un café, un jeu à gratter ou une dose de vaccin, c'est un peu le choix qu'on avait dans ce bistrot lillois.
Ici, vous avez le pass sanitaire. Ce sera effectif à partir de samedi prochain.
Cette possibilité, c'est Fabienne Plouvier, la patronne du Diplomate qui l'a imaginé dans son bistrot au cœur du quartier de Fives, un quartier qui a vu son centre de vaccination fermé il y a quelques jours.
Ma clientèle, c'est une clientèle de quartier. Il n'y a personne qui veut se rendre en centre-ville. C'est le stationnement, c'est les personnes âgées. Je me suis dit, pourquoi pas prêter l'établissement. Comme ils connaissent les locaux, ils se sentent comme à la maison.
Patrick, comment ça s'est passé, ta vaccination?
Jean est octogénaire. Sans cette opération, il ne serait pas allé se faire vacciner.
La propriétaire, qu'elle a eu cette bonne idée, c'est rassurant. Oui. C'est plus sympa, c'est pour moi, c'est ma deuxième maison.
En tout, une dizaine de personnes sont venues se faire vacciner en une matinée. Une idée originale qui pourrait être renouvelée.
Reportage signé Antoine Decarne. Le prix de l'électricité pourrait encore bondir de 10% en début d'année prochaine. C'est ce que révèle ce matin nos confrères du Parisien qui cite une enquête de l'UFC Que Choisir. Conséquence notamment d'une flambée des prix sur les marchés. L'association de consommateurs réclame une baisse d'une partie de la TVA.
8h05, la politique et les résultats surprenants du premier tour de la primaire écologiste.
Alors que Yannick Jadot était annoncé grand favori, il termine certes en tête avec 27% des votes, mais talonné de très près par celle qui sera désormais sa concurrente au second tour, Sandrine Rousseau. Tenante d'une ligne plus radicale, a rassemblé, elle, 25% des suffrages.
Je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui souhaitent changer le système, sortir du productivisme, sortir de la société de consommation, Aujourd'hui, le système politique tel qu'il est actuellement ne peut plus être notre boussole. Nous avons besoin de changer, de modifier, de déverrouiller notre société.
Sandrine Rousseau, micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Le second tour aura lieu le week-end prochain. Je vous propose à présent de revenir sur une déclaration qui a marqué ce week-end très politique. On la doit à Xavier Bertrand, invité du grand jury RTL Le Figaro LC, le président des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle, a vertement dénoncé hier la manière dont Emmanuel Macron utilisait, selon lui, l'argent du contribuable pour faire campagne.
Le quoi qu'il en coûte, pour la réélection d'Emmanuel Macron, il ne fait que commencer. On en serait à entre plus 5 à 7 milliards d'euros dépensés. Emmanuel Macron fait campagne avec le chéquier de la France.
Xavier Bertrand, hier sur RTL. Bonjour Martial Youn.
Bonjour.
5 à 7 milliards d'euros en 15 jours, dit comme ça, on explose tous les plafonds de campagne. Vous avez fait les comptes, est-ce que ce chiffre est juste?
Alors disons que dire que c'est un budget de campagne, c'est une lecture politique de Xavier Bertrand. J'ai fait les comptes effectivement depuis les annonces du président à Marseille. Les 23 500 sages-femmes de l'hôpital toucheront une prime de 100 euros et une hausse de salaire, on l'a dit la semaine dernière, montant du geste, 40 millions. Le Beauvau, oui, grosse production. Le Beauvau de la sécurité, 500 millions. Les travailleurs indépendants, 300 millions par an. La prime Rénov' pour isoler les maisons, 2 milliards en 2022. Le chèque énergie, 580 millions supplémentaires. La pilule contraceptive, prise en charge jusqu'à 25 ans, 21 millions. 50 millions pour la pêche, 170 millions pour le fret. 600 millions pour l'assurance des agriculteurs. Au total, ça nous fait 4,2 milliards d'euros annoncés en 15 jours. Si vous ajoutez Marseille, même si je l'ai volontairement écarté parce que le financement n'est pas encore très clair, on tombe sur le chiffre de Xavier Bertrand, 5,7 milliards. C'est de la redistribution pour accompagner la reprise post-Covid. C'est en tout cas comme ça que le présente le gouvernement. En revanche, ce qui pose problème, c'est qu'on n'intégrera pas dans le prochain budget le plan de relance ni l'aide aux jeunes décrocheurs qui vont représenter quand même encore quelques milliards supplémentaires.
Merci beaucoup Martial Youn, chef du service économie de RTL.
L'Europe sur le point d'imposer un chargeur de portable unique et compatible avec toutes les marques. Même Apple devrait s'y plier. On vous explique tout cela dans un très court instant.
RTL Matin.
8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. C'est un vieux serpent de mer. Le dossier est sur la table depuis plus de 10 ans, mais le chargeur unique pourrait bien, cette fois-ci, voir le jour.
Oui, un seul et même chargeur pour tous vos appareils, téléphones, tablettes, quelle que soit la marque. C'est ce que réclame depuis 2009 exactement la Commission européenne. Sauf que les marques ne jouent pas le jeu. Bonjour Nathan Bocard.
Bonjour.
Du coup, après avoir incité, la Commission s'apprête à l'imposer. C'est ce que révèle ce matin les Échos. Une directive prévoit d'imposer à tous les fabricants le même chargeur.
Oui, bientôt fini les piles de chargeurs qui traînent dans nos tiroirs et qu'on n'arrive jamais à démêler. D'ici 2024, tous les téléphones portables auront un seul et même chargeur. Alors ça concerne les smartphones, mais pas que. Tablettes, casque audio, enceintes, il suffira d'un câble pour tous les charger. C'est une mesure que certains fabricants combattaient depuis longtemps. Apple, par exemple, estime que cette obligation étouffe l'innovation. De son côté, la Commission européenne défend une mesure écologique qui doit aussi simplifier la vie des consommateurs. Elle souhaite aussi imposer que les chargeurs ne soient plus vendus automatiquement avec chaque appareil. Objectif, éviter leur multiplication dans chaque foyer et le gaspillage qui va avec. Car selon la Commission, 50 000 tonnes de chargeurs inutiles sont jetées chaque année.
2024, donc rendez-vous. Merci beaucoup Nathan Bocard.
Direction la Grande-Bretagne à présent.
Et où les effets du Brexit ont une fois encore des conséquences très concrètes sur la vie des Britanniques. Et nous allons évoquer ce matin les pénuries qui commencent sérieusement à se faire sentir dans les supermarchés. C'est le choix de la brigade RTL. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Vous avez pu vous-même le constater, dans certains rayons les stocks sont vides.
Oui, on voit parfois des étagères vides dans certains supermarchés, manque de coca, manque de viande, de poulet surtout, et pas que dans les supermarchés. Certains restaurants spécialisés ont dû fermer des branches cet été, faute de volaille. McDonald's a connu une pénurie de milkshakes. Et puis les pubs, certains pubs ont manqué de grandes marques de bière, et ça pour un Anglais, eh ben, ça frôle le crime de lèse-majesté bien sûr.
C'est quoi le problème Marie, la matière première?
Ah non, la bière elle est là, elle attend dans les fûts, c'est juste qu'il n'y a personne pour l'acheminer jusqu'au pub. Il y a une vraie pénurie de chauffeurs routiers, on manque de 100 000 camionneurs. Et pour la viande, le problème remonte encore plus haut, il n'y a plus assez de monde, plus assez d'employés pour abattre les bêtes.
Et alors pourquoi ça bloque ?
Alors, entre le Brexit et le Covid, beaucoup d'Européens ont quitté le Royaume-Uni. Or, beaucoup d'entre eux travaillaient dans ces secteurs, donc pénurie de main-d'œuvre. Et Boris Johnson refuse catégoriquement les suppliques des professionnels de la viande et du transport. Eux veulent embaucher à l'étranger pour parier à l'urgence, au moins. Mais non, car le Brexit, c'est British first. Les Britanniques nationaux ou résidents d'abord. Londres, malgré la panique aux alentours, ne se presse pas. Elle préfère investir dans la formation des chauffeurs. Alors, en attendant, les routiers ont reçu plusieurs augmentations parce qu'ils sont devenus des oiseaux rares.
Merci Marie Billon, la brigade RTL depuis Londres ce matin. Et puis la Grande-Bretagne et la famille royale à l'honneur, du moins leur adaptation télé très réussie par Netflix. Une nouvelle fois sacrée cette nuit aux États-Unis lors de la cérémonie des Emmy Awards. The Crown, série sur la couronne britannique, rafle tout. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur second rôle masculin et féminin et meilleure série. C'est ce qu'on appelle un triomphe.
Le football avec la victoire en dernière minute hier soir du Paris Saint-Germain face à Lyon au Parc des Princes.
Et notamment grâce à un pénalty accordé à Neymar, très discutable et que la vidéo aura bien du mal à justifier. Mais le score final est là, 2-1 et 3 points de plus pour Paris qui s'envole en tête de la Ligue 1. Mais la soirée a également été marquée par une scène qui n'aura échappé à personne. Alors qu'il jouait son premier match au Parc des Princes, Lionel Messi a été sorti avant la fin du jeu et le regard qu'il a lancé à son entraîneur Mauricio Pochettino au moment de quitter le terrain en dit long, Nicolas Georgeron.
76e minute, Lionel Messi qui dispute son premier match au Parc est remplacé par Mauricio Pochettino. À sa sortie, un échange très rapide avec l'entraîneur parisien, mais le visage de l'attaquant est sans équivoque, étonnement et incompréhension. Pochettino, devant les micros un peu plus tard, assume.
Je pense au meilleur pour chaque match, pour chaque joueur. Parfois c'est bien, parfois ça ne l'est pas. Parfois ça peut plaire, parfois non. Au final, on est là pour prendre des décisions. Sa réaction, je lui ai demandé comment il allait. Il a dit qu'il allait bien, sans problème.
L'acte n'est pas anodin. Façon de dire que Messi est un joueur comme les autres. L'épisode peut-il laisser des traces? Le phénomène argentin, qui n'a toujours pas marqué avec Paris en 3 matchs, n'était pas habitué à sortir en cours de rencontre à Barcelone. Et la direction du club va être attentive à la situation.
Nicolas Georgerot, plus tôt dans la journée, c'est Marseille qui s'est imposé 2-0 à domicile contre Rennes. L'OM, deuxième du championnat, suivi par Lens.
C'était un super match. Alors, dans un instant, Cyprien Signy, vous rendez hommage à René Malville, le supporter de l'OM qui vient de succomber à un cancer.
Ça lui aurait plu, ce match.
A tout de suite.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Et vous surfez bien entendu avec l'incroyable supporter de l'OM, René Malville.
Ses cheveux longs, cette voix.
Bonjour les enfants.
Et surtout cette faconde méridionale.
On va vous patafioler, on va vous ruiner, on va vous manger, on va vous escagasser.
Bon, alors là, en bon français, ça veut dire que l'OM ne fera pas de cadeau à ses adversaires. Car oui, René Malville, via les médias, c'était le supporter de l'OM emblématique.
L'OM, c'est le premier club de France.
Amour, passion et déraison donc, avec des coups de gueule. Bah, phénoménaux, forcément.
Je vous garantis que j'ai pas passé une bonne nuit. Vous êtes des pitres. Vous me chahigez les idées. J'ai regardé Zorro.
Obligé de regarder Zorro pour se détendre après un match raté de l'OM. Néné, comme le surnommaient les fans du Vélodrome. Néné, devenu personnage médiatique presque par hasard. À la fin des années 80, il tenait un bar près du siège des radios à Marseille.
Ce qui explique cela.
Voilà, c'est comme ça que les journalistes ont découvert le personnage. Voilà. Parfois déroutant.
Quand je parle, je ne trouve pas que j'ai l'accent marseillais. Je pense que je n'ai pas l'accent, en fait.
Pas du tout l'accent, Néné, évidemment. Normal, ouais. Invité partout, lui, l'ancien syndicaliste, ancien conducteur de bus, qui se retrouve même sur CNews pour parler des insultes homophobes dans les stades. Et comment dire, il a parlé comme il le sentait, quoi.
Quand on me dit à moi, ouais, mais t'en comptes les enfants dans les stades? Pourquoi les enfants, ils entendent d'être dans le stade pour entendre des conneries? Demandez aux professeurs d'école ce qu'ils entendent toute la journée. Ta mère, le t'es mort, ta grand-mère.
On n'a pas besoin de rappeler ces gros mots. Et c'est...
Hein? Il était comme ça, entier, nature et surtout sans fioritures, croquant tout ce que la vie lui offrait. Il a même été chanteur en 2005.
Je suis René Malville, supporter de l'Olympique, de Marseille. Et si bien sûr, c'est pas pareil, je suis occitan de maison, mais Marseillais d'adoption.
Oui, vous avez bien entendu, Marseillais d'adoption, parce que celui qu'on a parfois érigé en Marseillais de service est né à Carcassonne et n'est arrivé à Marseille qu'à l'âge de 9 ans, dans une ville où il a même été conseiller d'arrondissement en 2008, avec une certaine fierté.
Cette ville m'a tellement donné de joie, jamais je pourrais rendre à cette ville ce qu'elle m'a donné comme bonheur.
Et il en a donné en retour du bonheur, impliqué dans la vie locale, jouant de sa notoriété pour inciter les gens à rester chez eux pendant le confinement, par exemple. Voilà, dans son style caractéristique, bien sûr.
Et vous continuez à sortir en esquilant, ouais, mais moi, je ne peux pas rester enfermé, et bien tu restes enfermé. Voilà, moi, c'est ma femme qui vit, voilà.
Eh bien, après, on va jouer au Scrabble. Et voilà. Restez chez vous, bordel.
Une voix qui porte et qui nous avait fait tant sourire lors de cette rencontre improbable avec Jean Lassalle.
Alors, maintenant, on va trinquer et on va lui dire et voilà. Santé les enfants.
Et allez,
l'OM. En fait. Et... Allez l'OM, allez l'OM.
Allez l'OM.
Santé néné. Et comme un clin d'œil, l'OM a salué son départ hier, bah, par une victoire évidemment.
Merci beaucoup Cyprien. À ce soir à 18h40 pour défaire le monde avec toute votre équipe.
À ce soir.
Chez Julien Cellier. Dans un instant, pénurie de lingerie. Vous savez que de nombreuses industries tournent au ralenti depuis la reprise économique en cause des matières premières de plus en plus difficiles à trouver. Et c'est le patron de la marque Etam qui va nous dire que dans la mode aussi, les rayons en ce moment sont clairsemés. Bonne journée sur RTL et à tout de suite avec notre invité.
Yves Calvi, RTL Matin.
Il est 8h23, bonjour Laurent Melchior.
Bonjour Yves.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le PDG des magasins Etam et vous êtes venu nous parler d'une pénurie qui peut paraître inattendue. On connaît les pénuries d'aluminium, de bois de métaux précieux, mais dans le domaine de la lingerie, qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui vous manque effectivement?
Il nous manque d'abord du transport principalement et du retard dans nos usines et du retard dans les matières premières. Donc c'est un peu le même problème que toutes les industries. Un soutien-gorge c'est 40 pièces à assembler et donc c'est plein de matières différentes.
Un soutien-gorge c'est 40 pièces à assembler.
Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est un vrai contenu industriel beaucoup plus complexe que le reste du textile.
La faute à qui au Covid?
La faute en partie au Covid, bien sûr. Donc un peu moins de containers, parce que les containers n'ont pas été renouvelés. Donc il y a une pénurie de containers, donc les containers sont plus lourds, plus chers. Au-delà d'être plus chers, il y a la queue pour trouver un container. Et donc du coup, tout ça rallonge nos transports. Ensuite, il y a eu le Covid dans le port, par exemple, dont on a beaucoup parlé, oui. de Ningbo, qui est le troisième port mondial en termes de volume. Tant qu'il y avait un cas dans le port, en fait, le port est resté fermé plusieurs semaines. Et donc ça a créé un énorme embouteillage.
Donc les containers sont devenus rares, ils sont chers. Mais est-ce que par exemple vous avez envisagé de faire voyager votre matière première par avion? Excusez-moi, ça a l'air facile dans la bouche d'un journaliste.
Alors mais... la matière première non, le produit fini oui, on fait relativement peu d'avions. Historiquement on était descendu à 6% de nos marchandises en avion pour des raisons RSE principalement, hein, responsabilité sociale et environnementale.
D'accord.
Puisqu'on est très engagé depuis plusieurs années avec un label interne qui s'appelle WeCare et malheureusement avec les retards que prennent le shipping aujourd'hui mondial, on est obligé de réaugmenter temporairement un tout petit peu l'avion sur cette année.
Alors, Covid, ensuite problème de containers et de bateaux libres pour faire vos traversées. Quels sont les produits en rupture au moment où nous parlons?
Alors, au moment où on se parle, c'est
relativement
à l'instant T, c'est relativement peu. En fait, c'est surtout nos basiques, donc les produits fond de rayon qui sont normalement sur lesquels on est déjà en rupture.
Les produits fond de rayon,
ça va être un soutien-gorge en dentelle, un soutien-gorge en microfibre qu'on retrouve tout au long de l'année, qui varie en termes de couleur, mais qui est un produit qu'on va toujours retrouver dans un de nos magasins et sur lequel normalement on promet à nos clientes de ne jamais être en rupture de taille. Mm-hmm. Et comme on cadence, puisqu'on n'a pas toute la marchandise de l'année qui arrive à un instant T, on est obligé de la faire arriver régulièrement. Bah, on commence à avoir ce qu'on appelle des trous de taille. Donc vous allez retrouver votre soutien-gorge et de temps en temps il va vous manquer une culotte. Alors on a une offre très large.
Ça arrive jamais chez vous, hein, normalement.
Ça arrive. Enfin, pas vrai. Ça arrive de temps en temps, mais ça arrive un peu plus souvent là que ça devrait. Ça ne devrait arriver. Maintenant, le risque, il est sur les fêtes de fin d'année et pour nous, sur la Saint-Valentin, puisque c'est des marchandises. Vous avez, à un moment donné, vous avez la marchandise que vous pouvez décider de dévier sur un autre moyen de transport, sur l'avion, par exemple, ou sur le train, hein, parce que là, on fait de plus en plus de trains depuis l'Asie. Le train, c'est une dizaine de jours de transport quand l'avion, c'est deux jours et le bateau, c'est plus de 30 jours. Et là, en fait, parfois, les produits sont dans les containers, bloqués, parce qu'on attend le bateau qui ne peut pas encore partir à cause des embouteillages des ports. Et donc du coup, nous, on n'a plus la main sur la marchandise.
Ce qui est extraordinaire dans ce que vous décrivez, c'est qu'on se rend compte que ça se passe tout autour du monde et qu'en même temps, on bloque sur des histoires incroyablement simples. Pardonnez-moi, on est parti des magasins, on est allé dans les containers, là je suis avec vous dans les ports. Est-ce que vous manquez parfois de tissus ou de matières premières, c'est-à-dire en partant du coton jusqu'aux produits
tout
synthétiques
à fait.
Qui peuvent
être utilisés? Le coton, coton bio avec différents labels comme Goats, etc. Et le polyester recyclé, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de notre polyester utiliser du polyester recyclé, puisque plus de 50% de nos produits sont dits WeCare, donc ont plus de 50% de matière recyclée dans leur composition, une matière organique. Et donc du coup, et ça c'est un enjeu très fort que je tiens à tenir, quitte à augmenter légèrement les prix si on a une augmentation significative sur ces matières, mais c'est un engagement que le groupe a pris. Et donc sur ces matières-là, oui, on a des pénuries parce qu'il y a une forte demande mondiale et la production n'a pas augmenté aussi rapidement, probablement aussi à cause du Covid, qu'elle l'aurait dû. Et ensuite, on a eu des cas dans les usines qui font qu'un certain nombre d'usines ont fermé, des gouvernements comme au Bangladesh Ardèche, qui est un de nos bassins de sourcing, même si on fait tous les contrôles qualité, etc., qu'on doit faire, qui fait que tout ça, la somme de tout ça fait qu'on a aujourd'hui à peu près dans nos encours de marchandises 25% de nos marchandises qui ont plus de 3 semaines de retard aujourd'hui à l'embarquement. Et donc du coup, ça, c'est un risque pour Noël et c'est un risque pour la Saint-Valentin, qu'on va compenser en partie. Donc on va pas avoir une pénurie, hein, les femmes vont pas manquer et de pyjamas et de soutien-gorge, mais clairement ça va faire des décalages.
Alors on a compris que vous essayez de composer avec pour éviter des produits en rupture. Est-ce que tout ça va finir par peser dans les comptes et sur les prix, bien entendu. Sur les prix, pour commencer, tous ceux qui nous écoutent se posent la question.
Dans les comptes, oui, ça pèse. Maintenant, on a acheté un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, nous, de changer notre chaîne d'approvisionnement et donc d'aller chercher les composantes directement chez les fournisseurs. C'est-à-dire qu'on était un donneur d'ordre, on demandait à notre fournisseur de nous trouver du coton, les armatures, etc. Et puis, on payait la facture avec des négociations au milieu de tout ça. Oui. Aujourd'hui, on s'est dit, OK, on va aller chercher directement du coton organique, on va aller chercher directement du polyester recyclé. Donc on a coupé un certain nombre d'intermédiaires. Donc au lieu de gagner en marge, en fait on n'a pas gagné parce que ce surcoût il a été compensé quelque part par ce changement de chaîne d'approvisionnement. Maintenant le coût du transport, on va pas se cacher sur une année comme cette année 2021, notre transport amont, c'est-à-dire monde jusqu'à nos entrepôts en France, il aura triplé.
Donc c'est le coût du transport pour Etam aura triplé,
à peu près triplé, 2,8 fois en 2021 par rapport à 2020. Alors 2020 on a acheté un peu moins. Covid aidant, mais le coût il a quasiment triplé. Les containers, il a été multiplié par 10, donc on fait un peu plus d'avions, donc le coût il a triplé. Est-ce qu'on va augmenter nos prix? Peut-être un tout petit peu. Et ça fait partie de ce phénomène global qu'on est en train de voir.
Peut-être un tout petit peu semble trop évasif. Soyons très concrets.
En fait, tous les jours,
vous êtes en train de nous prévenir qu'il allait y avoir de quoi? Alors, une légère hausse, c'est ça?
Il y aura une légère hausse sur un certain nombre.
On peut parler en pourcentage?
Non, on peut pas encore parler en pourcentage parce que chaque jour, en fait, on moniteur. Si on arrive à réduire l'avion au maximum, puisque c'est ça qui coûte très cher en fait, et notre engagement RSE fait qu'on réduit l'avion au maximum, c'est ça la variable d'ajustement. Maintenant, sur certains produits à forte valeur ajoutée, il se peut qu'il y ait quelques répercussions de prix comme tout le reste de l'industrie.
Un tout dernier mot, vos magasins sont pas en danger?
Non, les magasins ne sont pas en danger. On a eu la chance de bien traverser cette crise, bien aidé par le chômage partiel. On n'a pas encore touché nos différentes aides, mais ça ne saurait tarder. On a la chance d'être un groupe familial et non endetté. Et donc, du coup, on a bien traversé la crise et on n'a pas fermé le magasin pendant cette crise et on n'en fermera pas à la sortie non plus.
Vous nous donnez juste vos chiffres, parce qu'on ne le sait pas en France. Vous êtes présent dans 52 pays dans le monde, c'est bien cela?
C'est ça.
Avec un peu moins
de 1500 magasins dans le monde, une grosse présence en digital, puisque notre métier maintenant c'est le digital aussi, et un peu plus de 700 magasins en France.
Merci beaucoup Laurent Milker, vous êtes le PDG des magasins Etam, et donc on attend que les bateaux reprennent et que les avions arrivent plus rapidement. Merci infiniment, bonne journée à vous.
Merci à vous. Bonne journée.
Notre météo maintenant avec vous Marina Giraudot, c'est la météo à 7 jours.
Oui, avec une semaine qui commence avec des nuages et des averses sur une grande partie du pays. Aujourd'hui, pour avoir un petit coin de soleil, il y en aura deux. Le sud-est, PACA et Corse, mais il y aura du vent. Et puis Bretagne, Cotentin, Pays de la Loire, là aussi on aura de belles éclaircies. Pour les autres, vous gardez des passages nuageux, des averses, quand même moins nombreuses cet après-midi que ce matin, mais tout de même. Côté température, c'est assez homogène. 17 à 21 degrés en général, 24 à 26 en Méditerranée. Demain, ça s'améliore. Oui. On retrouve un temps sec et ensoleillé sur les deux tiers du pays, les deux tiers nord. C'est sur le tiers sud qu'il y aura encore quelques passages nuageux et des averses résiduelles, orageuses pour PACA et Corse. Mercredi, on garde ce temps sec et ensoleillé. Les nuages vont vraiment résister que vers les Pyrénées et la Méditerranée. Et à partir de jeudi, c'est reparti pour une nouvelle perturbation pluvieuse qui va arriver par la Manche, traverser le pays entre jeudi et vendredi, mais en perdant de son activité et en épargnant la Méditerranée. Et pour le week-end, on va garder cette même configuration. Nuages et averses au nord de la Loire jusqu'à la Belgique, sec et ensoleillé ailleurs.
Formidable. Dites-moi, vous aimez les brochettes de poulet, vous?
Oui, j'aime bien. Pourquoi?
Ça sera, parce que ce sera la recette de Cyril Lignac juste avant 9h.
Je reste.
Merci. Auparavant, on va retrouver Laurent Gérard. Vous restez aussi.
Oui.
Et on va même partir en Chine parce que, vous le savez, en ce moment, nous sommes confrontés à cette fameuse affaire des sous-marins et les Chinois sont partie prenante de ce dossier.
RTL. Revivre ensemble. Comme vous. RTL autour du monde.
Et aujourd'hui, direction la Chine, on retrouve Stéphane Pambrin, notre correspondant à Pékin, pour voir avec lui quelles sont les réactions chinoises à l'affaire des fameux sous-marins australiens. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et nous avons une Chine très en colère, Stéphane, par ce qu'elle appelle un complot fomenté contre elle par les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni.
Oui, il y a cette colère effectivement de Pékin qui a condamné sévèrement ce transfert de technologie de sous-marins à propulsion atomique promis par Washington à Canberra. La Chine pointe ce qu'elle appelle le double langage de l'Amérique sur la question de la prolifération nucléaire. Dans une conférence de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a accusé ces pays de provoquer une nouvelle guerre froide. Écoutez Zhao Lijian.
La coopération entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie en matière de sous-marins nucléaires sape gravement la paix et la stabilité régionale, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire.
Et cet accord sans précédent doit permettre aux 8 futurs submersibles australiens de mener des patrouilles jusqu'en mer de Chine du Sud ou au large de Taïwan, des zones revendiquées par Pékin, car ce qui est en jeu, c'est bien la maîtrise d'un espace maritime gigantesque et riche en hydrocarbures, stratégique aussi parce que ce sont des routes maritimes essentielles entre l'Asie et le reste du monde. La Chine a de facto occupé la zone en envoyant des soldats sur des îlots transformés en bases militaires, des zones revendiquées par plusieurs autres pays comme le Vietnam ou les Philippines. Et les États-Unis et leurs alliés, eh bien, veulent garantir la liberté de navigation. Il faut savoir que dans cette zone aussi, la marine française patrouille parfois, ainsi que la marine allemande, ce qui a fait dire à la diplomatie chinoise en s'adressant aux Européens et surtout aux Français, ne faites surtout pas confiance aux États-Unis.
Stéphane, est-ce qu'il y a vraiment un risque de course aux armements dans la région ?
Oui, car en acceptant de partager le savoir-faire sensible de la propulsion nucléaire assorti de la vente de missiles Tomahawk, eh bien Joe Biden affirme l'engagement à long terme de l'Amérique sur le front Pacifique, rassurant ses alliés ici comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, et évidemment l'Australie. Il faut savoir que les États-Unis disposent de plusieurs bases militaires dans la région. Et en quittant l'Afghanistan, eh bien les États-Unis ont renforcé leur position dans le Pacifique. Cette semaine d'ailleurs, Joe Biden tissera un peu plus sa toile autour de l'Empire du Milieu en présidant un sommet du Quad, format réunissant l'Inde, le Japon et l'Australie. Encore une fois, là encore, c'est la Chine qui est visée.
Merci beaucoup Stéphane Pambrin, correspondant d'RTL en Chine.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Et ce matin, Isabelle Choquet, à 8h37, vous vous intéressez à ce qu'on appelle généralement une pause technique, oui. En l'occurrence, ben voilà, les urines de nos sportifs.
Eh bien oui, il faut le dire comme c'est. C'est l'équipe MAG qui se penche sur le sujet avec un dossier au titre facétieux, laissons pisser. Dossier où l'on apprend par exemple que le record du pipi le plus long du monde est de 8 minutes et 47 secondes. L'urologue Jonathan Lopater est formel. Il y a des pathologies où la vessie est ralentie. Des gens qui mettent 8 minutes pour vidanger, oui, ça existe. La bonne excuse hein, pour le tennisman Tsitsipas, champion des pauses pipi à rallonge, même si, selon l'équipe, le tennis souffre plutôt du syndrome « je vais pisser quand je perds ». Car l'envie de faire pipi, la vraie, c'est dévastateur. Ça détraque tout. Une étude américaine de 2011 le prouve. Le besoin très pressant altère autant les fonctions cognitives que le fait de rester éveillé pendant 24 heures d'affilée. Ou d'être légèrement pompette. La sabreuse Charlotte Lambach l'a appris avec les années. Mieux vaut un petit retard avant qu'une grosse fixette pendant. Quand tu te dis « encore 10 touches, faut que je tienne », c'est pas terrible. Un pipi peut faire chavirer une compétition. Mm-hmm. Techniquement, c'est toujours un peu plus compliqué pour les femmes, certes. Forcément. D'autant qu'elles sont moins bien équipées que les hommes pour se retenir. Question de longueur de l'urètre. En revanche, l'inconfort est le même pour tout le monde, alors on anticipe. Sur le Dakar, Cyril Després avait fait un topo à son nouveau copilote Mike Horn. Dans la voiture, on mange ça, on boit ça, on porte ce casque et ses protections pour personnes âgées. Il m'a dit « Tu rêves, je ne mettrai jamais tes couches pampers ». Résultat, 250 km en tapant du pied et en bégayant son itinéraire. C'est encore pire avec les courses en altitude. En Bolivie, dit Després, ça pouvait arriver 10 fois dans la journée. À moto, il avait pris l'option acrobate. Dans les zones à 30 ou 50 km/h, je levais la jambe gauche, je la posais sur la selle. Avec la main droite, j'ouvrais le pantalon et j'essayais de ne pas arroser la totalité de la moto ou de mes bottes. En Formule 1, on se pose moins de questions. D'après Sébastien Vettel, au moins un pilote sur deux se laisse aller sur son siège. Hamilton a balancé, Schumacher faisait dans sa combi à chaque fois que c'était nécessaire. Mais parfois, le problème, ce n'est pas de se retenir, mais de faire. Ah, et oui, parce que depuis l'enfance, on nous serine, on ne fait pas pipi dans sa culotte.
Non.
En plus, le corps a du mal à vidanger dans le mouvement, d'où le souci du pilote Mathieu Baumel. Une fois, on avait 10 minutes à rouler en ligne droite à 50 à l'heure. Je me suis mis à l'extérieur de la voiture, j'ai sorti tout le machin, et je n'ai jamais réussi. Les nageurs, eux, sont comme des poissons dans l'eau, pipi dans l'eau entre 5 et 6 fois en 3 heures d'entraînement, selon Amaury Levaux. Les marathoniens emportent des bouteilles vides, bouteilles de lait de préférence, le goulot est plus large. Mais les footballeurs et les rugbymans, quand ils doivent se soulager sur le terrain, ben là c'est moins discret et les photographes se régalent, comme avec Fabien Barthez qui avait sorti le matos à l'ancienne dans la surface de réparation. C'est devenu culte, on en a même fait des t-shirts. Petits coins et grandes histoires, c'est à lire dans le dossier de l'Équipe Magazine. Il y a aussi un grand article sur la stratégie de la pause pipi dans les courses cyclistes et tout ça, c'est passionnant.
Je vais regarder les piscines d'un autre œil en ce qui me concerne après ces informations que vous venez de nous communiquer. Merci beaucoup Isabelle et à demain.
À demain. Vous êtes comme ça.
Nous partons à Toulouse dans un camp de Roms où la scolarisation des enfants est extrêmement compliquée et nous allons vous présenter le travail de Rencontre Roms en lien avec plusieurs écoles du quartier. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour Yves, bonjour à toutes et à tous.
Des éducateurs et des enseignants qui travaillent main dans la main viennent d'obtenir une vraie victoire pour la première fois cette année. Tous les enfants, je dis bien tous les enfants de ce camp de Roms sont scolarisés.
Exactement, et c'est un travail de longue haleine qui porte ses fruits. Andrei, 18 ans, a grandi dans ce camp où la population vit dans une grande précarité sur un terrain mis à disposition par la ville. Il est l'un des premiers à avoir bénéficié d'une scolarité presque normale et est aujourd'hui médiateur scolaire. Son apprentissage a pourtant été semé d'embûches. L'école y était parfois remplacée par la mendicité.
Moi aussi j'ai mendié parce que c'était une difficulté d'avoir à manger tout ça. Moi je voulais aider mes parents.
Mendicité, délinquance, le risque de déraper est omniprésent. D'où ses sourires cette année. Les 41 enfants du bidonville sont tous scolarisés. La députée Sandrine Morque mène une mission pour identifier les obstacles à l'éducation des enfants.
C'était du jamais vu dans ce bidonville.
Il n'y avait personne pour leur dire c'est aujourd'hui.
L'école c'est aujourd'hui, demain tu vas rentrer à l'école.
On voit bien que ce petit kilomètre là entre l'école, le bidonville, il faut qu'il se fasse avec un intermédiaire, des ambassadeurs, des jeunes et les parents, c'est pareil, ils suivent tous.
Des parents comme Lorenzo, condamnés aujourd'hui au même type de métier.
On travaille sur les sociétés de nettoyage la plupart parce qu'on ne sait pas bien lire, on ne sait pas bien parler.
Et grâce à l'école, les enfants vont pouvoir faire d'autres métiers.
Ils ont plus de chances par rapport à nous et vraiment on est content de ça. Comme ça, ils vont prendre un bon métier, un avocat, un médecin, un policier, pourquoi pas.
Pour y parvenir, le mardi et le jeudi, l'association Rencontre Roms Nous assure également du soutien scolaire dans le camp, car l'école ne suffit pas, explique le coordinateur Nathal Vignot.
Notre projet de soutien scolaire, il s'articule sur le triptyque aller à l'école, rester à l'école, réussir à l'école. Et c'est un temps qui est très demandé par les enfants. Même après une journée d'école, ils viennent ici. Et l'Algeco, d'ailleurs, il l'appelle la petite école du terrain.
Cet apprentissage prend souvent des allures très ludiques. Alissa y est en CM1.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Moi, j'aime bien faire l'alphabet. Un peu lire. J'aime trop les calculs, les fois, les maths.
Désormais, d'autres jeunes pourront sans doute suivre la voie d'Andrei, le médiateur scolaire. Il est par exemple un modèle pour Jonathan, son frère de 10 ans.
Bah lui, il est allé à l'école et il a un bon métier. C'est ça mon rêve, d'être comme lui.
De voir mon petit frère me parler comme ça, c'est vraiment émotion totale. Quoi.
Cette émotion et ses rêves qui s'éveillent sont aujourd'hui possibles, mais aucun relâchement n'est permis pour sortir un jour les enfants de ce bidonville toulousain.
Merci beaucoup Patrick Hisson pour cette initiative dans le quartier Purpan à Toulouse, de la générosité et de la bienveillance. Vous êtes comme ça et à retrouver sur RTL.fr. Dans un instant, Laurent Gérard et Cyril Lignac sur RTL.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
8h45. Bon, on a, je pense, assez échangé d'adresse de restaurant.
Oui, c'est bon.
On a
débriefé.
On a débriefé.
Le week-end. Voilà.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour.
Bonjour Mademoiselle Gérard.
Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour à tous. Les journées du patrimoine ont eu lieu ce week-end, vous le savez, parmi les monuments les plus demandés, comme chaque année, l'Élysée, où nous retrouvons ce matin le couple présidentiel.
Oui. Brigitte, c'est quoi ce refus? Arrête cet aspirateur, je n'arrive pas à me concentrer. Je suis en train de relire le plan que j'ai commandé au gouvernement. Ça s'appelle Bâtir la France de 2030.
Oui, avant de bâtir la France de 2030, il faut faire le ménage à l'Élysée avant demain. Avec tes journées du patrimoine, c'est le bazar. Non, ici. Non, mais regarde-moi ça. Entre les miettes de sandwich sur les canapés, les traces de croque-nos sur la moquette qu'ont laissé les visiteurs, on se croit dans une porcherie. Et puis, mais qu'est-ce que c'est que ce suppositoire géant dans le jardin?
Mais c'est un sous-marin que l'Australie nous a pas acheté. Christo va l'emballer. Allez hop, à la poubelle. Lisez, c'est la maison du peuple.
Oui, alors, tu files un mauvais coton, toi. Tu as encore reçu un coup de téléphone secret de ton petit camarade communiste Robert Rue. Rassure-moi, tu ne vas quand même pas te faire pousser le collier de barbe pour ta campagne de 2022.
Laisse tomber, Brigitte, tu comprends rien de la politique.
Petit insolent, c'est ça, retourne faire mumuse dans ton bureau pendant que je m'occupe du ménage. Ah, oh, cet aspirateur qui ne veut plus marcher, il faut que j'en change. Oh, ok, Goglet, appelle le service après-vente d'Arty.
Ok, Brigitte, j'appelle Eric Ciotti.
Allô? Ici Eric Ciotti, candidat à la présidence de la République. Excusez-moi, monsieur, c'est une erreur. C'est Darty que je voulais, pas Ciotti. Ah, oh, maintenant, avec mon aspirateur, je me retrouve le bec dans l'eau. Je ne suis pas un canard. Non, mais personne ne dit ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai une très bonne idée pour votre candidature. Ok, googlez. Fais écouter à monsieur Ciotti sa future musique de campagne.
C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font coin-coin.
Je ne suis pas un canard.
Ah, voilà, on se remet. Alors, laissez-vous tenter dans quelques minutes sera largement consacré au nouveau roman de Guillaume Musso intitulé L'inconnu de la Seine.
Non mais attends, il est où là, Bernard Lehaa?
Le U.
Monsieur Calvi.
Pardon.
Bonjour Nicolas Sarkozy. Notre spécialiste littéraire ne s'appelle pas Bernard le A, mais Bernard le U.
Comme il a dit, Monsieur Calvi. Voilà. Oui, enfin, le A, le U, le I, le O, ça reste des voyelles. Hein. On n'a pas chipoté. Mais pourquoi que votre Bernard le U, il cause de Guillaume Musso et de son inconnu de la Meuse et pas de promenade, 300 pages, 29 euros en précommande chez Leclerc.
Mais peut-être parce que Promenade, votre livre consacré à vos passions littéraires, sort dans 2 jours.
Oui, c'est ça. Me prenez pas pour un poulet de 3 semaines. Hein. Vous êtes terribles, vous autres, les journalistes. À part croire que, comme quoi que je serais un grand écrivain, capable, comme dans Promenade, 300 pages, 29 euros en précommande à Carrefour Market, de parler de mes collègues écrivains qui m'ont marqué au fer à repasser rouge.
Ah oui.
Les Balzac, les Stendhal, Flaubert. Surtout, alors, je peux vous le dire, surtout
oui,
Flaubert.
Oui, bien sûr, oui.
J'adore sa biographie de Philippe Bouvard. Mm-hmm. Bouvard et Pécuchet. Par contre, j'ai pas compris qui c'est ce Pécuchet. Il a fait les grosses têtes, lui aussi.
Mais pas tout à fait. Bon, écoutez, merci Nicolas Sarkozy. On lira votre livre, c'est promis.
Justement, est-ce que vous pourriez aller m'acheter Promenade, 300 pages, 29 euros, en précommande chez Félix Potin, pour qu'enfin que je le lise, histoire de savoir de quoi que je parle, quand Bernard le W, il m'invitera.
Mais vous ne pouvez pas aller l'acheter vous-même ?
Non, parce que chaque fois que je vais faire les courses, on me prend pour un voleur. Quelle indignité !
Mais pourquoi donc ?
Parce que je sonne au portique à cause de mon bracelet électronique. C'est un cadeau que m'a fait ma juge préférée. Elle est gentille, hein.
Un an après sa mort, l'artiste Christo a finalement vu son souhait exaucé avec l'emballage de l'Arc de Triomphe.
Oui. Bonjour, c'est Jack.
Bonjour, Jack Lang.
Quand j'ai entendu le nom Christo, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai enfilé mon costume, je me suis teint les cheveux à l'encre de sèche. Genre soulage. Et j'ai bondi sur ma trottinette électrique pour venir témoigner.
Son emballage de l'Arc de Triomphe est très critiqué.
Ça ne m'étonne pas. J'étais ministre de la Culture quand il avait emballé le Pont Neuf.
Oui.
Et déjà à l'époque, personne n'avait rien compris, Jean-Marie.
Eh bien, justement, expliquez-nous, que signifient ces emballages?
L'idée... l'idée de Christo, quel bel homme, c'est de révéler en cachant. Depuis le temps qu'ils le voient, les Parisiens ne regardent plus l'Arc de Triomphe. Un peu comme un époux ne regarde plus la femme qu'il a épousée il y a 30 ans parce qu'elle passe sa journée en legging à faire des sulocus devant les replays d'M6 Boutique.
Bon, pardon, mais je vois pas le rapport.
Mais si.
Quoi ?
Emballer l'Arc de Triomphe, c'est un peu comme offrir une nuisette sexy et des talons de 15 à la ménagère. Suivant, on la trouve de nouveau excitante et jolie, Magali. 14 boules. Grâce à Christo, les Parisiens ont de nouveau envie de faire l'amour à l'Arc de Triomphe.
Admettons que votre raisonnement marche avec les Parisiens, mais imagine un touriste japonais qui vient à Paris pour la première fois et n'a donc jamais vu l'Arc de Triomphe.
C'est exactement pareil. Car on parle de cristaux dans tous les guides. Mmh. Et vous verrez, l'emballage de l'Arc de Triomphe va susciter le même désir et faire pointer les nippons.
Bonjour.
Bonjour Pascal Praud, vous êtes venu nous présenter le sommaire des auditeurs à la parole.
Tout à fait, mais d'abord je voudrais demander une recette à monsieur Lignac.
Ah ben profitez-en parce qu'il est là notre oui. Cyril.
Alors voilà, pour varier un peu et participer à mon émission de l'heure des pros, j'aurais besoin d'une brochette de spécialistes.
Alors Pascal, pour une bonne brochette de spécialistes, le mieux, enfin à mon sens, hein, c'est de prendre un épidémiologiste,
oui.
C'est pas tellement un mot de cuisine, hein,
non.
Un sociologue des médias et un docteur en physique quantique.
Très bien.
D'accord, et qu'est-ce que j'en fais?
Pascal, vous les enfilez dans une pique à brochette en intercalant une lamelle d'oignon, une lamelle de poivron entre chaque spécialiste. Vous saupoudrez d'un peu de piment d'Espelette.
Voilà.
5 minutes au barbecue et c'est prêt.
Merci Cyril. Ça donne envie. J'essaierai ça dès demain. En attendant, voici donc la question que je poserai tout à l'heure dans les auditeurs à la parole. Christo a emballé l'Arc de Triomphe. On en a parlé beaucoup.
Oui.
N'aurait-il pas plutôt dû emballer l'Hôtel de Ville pour empêcher la dingo de sortir? Je pose la question 3210.
Oh, Pascal, quand
j'ai
même.
Je n'ai pas fini. Ah. Le fait d'avoir emballé l'Arc de Triomphe avec du papier hygiénique fait-il de l'œuvre de Christo une œuvre à chier? Réagissez. J'attends vos réponses 3210. Et puis une petite dernière.
Ah oui, Pascal,
une
allez-y.
Dernière.
Vous n'avez pas fini.
À propos de l'Australie, oui. Plutôt que des sous-marins, n'aurait-il pas fallu vendre des sous-vêtements, des slips kangourous, par exemple, aux Australiens? Je pose la question 3210 et j'attends vos réponses.
Vous avez bien fait de la poser.
C'est tout en finesse. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve sur le site rtl.fr.
Et merci Cyril.
Merci Cyril, j'y participe activement.
Qui va nous donner une vraie recette de brochette de poulet.
On va faire une vraie brochette avec un peu de saté.
Oui.
On colle à l'actualité. Nous, on est là. On est présent.
Il y a une cohérence.
Merci Jack Lang de l'avoir identifié. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Avec Yves. RTL Matin. Yves Calvi.
Ça tombe bien, le chef, j'en tiens. Nous échangeons quelques recettes, n'est-ce pas? Alors, Colin, il vit à Sablé-sur-Sarthe et il vous demande une recette de brochette de poulet. Paf!
Et ça tombe bien, on continue à la lancer. Sauf que là, c'est des vrais poulets.
Il est content.
Donc, on prend les filets de poulet, on les coupe en deux, et puis après en quatre, des gros morceaux parce que c'est important.
Oui.
On les mélange avec du saté, cette sauce avec de la cacahuète, du paprika, toute cette sauce un peu épicée, c'est vraiment délicieux. Mm-hmm. Avec un peu d'eau, du jus de citron, et on mélange tout ça et on laisse mariner.
Donc ce sont devenus des cubes, hein, mes petits morceaux.
Exactement.
Très bien.
Prêts à monter sur la brochette. Et là, on les fait mariner. Pardon, j'ai pas fait ça. C'est Laurent,
vous laissez pas perturber. D'autant plus que maintenant vous avez Bernard Lehu derrière vous.
Oh là là.
Qui n'a pas encore lu Brandade.
Je suis mal entouré là. Alors je fais chauffer une poêle avec de l'huile d'olive ou le barbecue, et c'est au choix. On met un petit peu de beurre si on est dans la poêle. On badigeonne un petit peu d'huile d'olive si on est au barbecue.
Why not?
Et puis on dépose les brochettes. Donc bien entendu, on monte à la brochette le poulet. Alors moi, je fais que des brochettes à la viande. Je mets pas d'oignon, pas de poivron.
Non.
Je mets vraiment la viande. Et là, je les cuis 4 minutes de chaque côté. Juste là. À côté, je fais cuire du chou-fleur. Mm-hmm. Chou-fleur dans de l'eau. Ensuite, je les fais colorer avec un petit peu de beurre, des raisins, du jus de citron, zeste de citron vert. On prend quelques amandes et on les râpe dessus, ou des cacahuètes, ou des noix de pécan, noix de cajou. Ça apporte toujours un côté un peu arachide sur le chou-fleur.
Sympa.
Voilà. Et puis on pose notre petite brochette. Voilà, voilà.
C'est fait.
Vous me le mettez dans un état de bonne humeur.
Posez-moi les questions 32-10.
Déjà qu'il a une nature plutôt ouverte et joyeuse.
Ouais,
alors là, quand vous êtes là, ça prend des proportions absolument incroyables. Ben vous savez quoi? Toutes les étapes de la recette sont à retrouver sur le site rtl.fr. Colin.
Oui.
Vous avez l'impression d'avoir rempli votre mission jusqu'au bout.
Ah non, mais c'est fantastique.
Bon, bah c'est parfait.
Très bien.
Non, parce que on peut changer, on peut mettre que au paprika.
J'attends Dominique Tenza pour le flash. Si je peux combler une trentaine de secondes, non, ça m'en sert.
Alors, et moi, je peux les faire au paprika fumé.
Et ben voilà.
Voilà. Un peu moutardé.
Et d'ailleurs.
Et puis, je laisse la place.
Voilà, vous allez vous installer ici, cher Dominique, parce que je sais qu'il y a un peu de monde. Et voilà. Et
ça arrive.
RTL, il est. Allez-y.
Il est 9h.
Bravo.
RTL Matin, Yves.
Calvi.
Le point sur l'actualité avec Dominique Tenza.
Rien ne va plus entre alliés. La ministre des Armées Florence Parly annule une rencontre avec son homologue britannique. Dernier épisode de la crise des sous-marins. Boris Johnson a beau déclarer que la France et le Royaume-Uni ont une relation, je cite, très amicale, rien n'y fait. Joe Biden a demandé à parler à Emmanuel Macron. Il y aura un échange téléphonique dans les tout prochains jours, a fait savoir l'Elysée. Le parti du Kremlin affirme ce matin avoir remporté les législatives en Russie, plus de deux tiers des sièges des députés à l'Assemblée, conservant ainsi la super majorité nécessaire pour modifier la Constitution sans l'appui d'autres formations. Une victoire claire et propre, estiment les vainqueurs, en dépit de multiples accusations de fraude. Emmanuel Macron présidera tout à l'heure une réception consacrée aux harkis, le chef de l'État qui dit vouloir franchir un nouveau pas vers la reconnaissance de la responsabilité de la France dans les souffrances de ses anciens combattants, 200 000 hommes recrutés comme auxiliaires de l'armée française et abandonnés pour une partie d'entre eux après la fin de la guerre d'Algérie. Le député européen Yannick Jadot face à l'économiste Sandrine Rousseau, voici les deux qualifiés pour le second tour de la primaire écologiste, deux lignes opposées qui seront départagées par les votants du 25 au 28 septembre, de samedi à mardi prochain. Et puis le football, la victoire du Paris Saint-Germain dans les dernières minutes hier soir face à Lyon, 2-1. Sixième victoire en 6 matchs pour le club de la capitale. Paris seul est loin en tête du classement avec 18 points devant Marseille, 13 points, et Lens qui est à 12.
Merci beaucoup Dominique.